14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. La frustration, oh là là, c'est un vilain mot. Et qui d'ailleurs a envie de la subir, que ce soit de la part de nos parents durant l'enfance, de la part de notre partenaire durant notre vie sexuelle, ou encore de la société dans tous les domaines. Et oui, c'est humain de vouloir tout et tout de suite, et ça commence dès le début de notre existence. Il faut dire que durant 9 mois, nous avons été nourris et logés, et c'était quand même assez paradisiaque. Alors durant des siècles, l'humanité a souffert de frustrations alimentaires, de frustrations pécuniaires. Par exemple, tenez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le crédit, c'est-à-dire acheter à crédit, c'est une invention très récente, c'est une invention du milieu du XXe siècle. Avant, tant qu'on n'avait pas l'argent pour s'acheter son vélo, on n'avait pas de vélo. Notre époque, aujourd'hui, ne nous apprend absolument plus la frustration et notre éducation repose peut-être plus sur des notions d'amour, et c'est très bien, et puis sur aussi des notions de possibilité de faire tout ce qu'on a envie, toujours plus que sur la nécessité d'apprendre la frustration. Alors figurez-vous que mon invité Didier Pleu a sonné ce signal d'alarme il y a déjà de nombreuses années, justement de la nécessité de la frustration, mais il semble bien que ce ne soit toujours pas un message entendu. Alors je vous propose une petite piqûre de rappel avec Didier Pleu qui va nous expliquer pourquoi il est si important de savoir accepter la frustration. Et puis bien sûr, je vous invite à nous rejoindre pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'acceptez, vous, la frustration, ou est-ce que vous rester un éternel rebelle, même à 70 ans. Notre numéro, c'est le 0826-300-300. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Brigitte.
La frustration, c'est vrai que c'est un vilain mot aujourd'hui.
C'est vilain, comme vous le disiez, personne n'a envie d'être frustré, mais c'est vrai qu'on a toujours mis en avant le négatif dans la définition de la frustration. En psychologie, psychanalyse, c'était lié à la castration. Ça voulait dire, si on empêche le désir d'un être humain de s'épanouir, donc la personne, elle va devenir malade, pathologique. Donc c'était bon que toute une pensée aille dans le sens de évitons les frustrations, allons dans le principe de plaisir et jouissons de la vie. On est tous d'accord avec ça. Simplement, en retenant que le côté castrant, déplaisant, négatif de la frustration, on a oublié qu'elle était...
Qu'elle régulait quelque part.
Hein. Oui, et qu'elle était incontournable de la construction psychique, puisque la frustration, ça veut dire, si j'accepte d'être frustré, on n'a pas dit aimer être frustré, si j'accepte d'être frustré, ça veut dire que j'accepte ce qu'on appelle le principe de réalité. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux, les autres existent, la réalité existe. Donc si je n'ai pas une force pour accepter les aléas de la vie, le comportement des autres, mes dysfonctionnements, mes petits déficits, il y a de grandes chances que je sois très vulnérable à cette même réalité. Alors que si je reste tout le temps dans mon principe de plaisir, c'est agréable, c'est du court terme, mais on va dans le mur, parce qu'à un moment donné, comme vous le disiez avec le crédit, si on peut rembourser, c'est OK, mais on peut se surendetter, et puis on peut aussi être addictif aux achats, parce que c'est de plus en plus possible. Et là, il n'y a plus de limite, c'est la toute-puissance de l'ego.
Oui, et j'ai pris l'exemple du crédit, parce que je trouve que c'est parfois plus facile de faire comprendre à quelqu'un un concept sur quelque chose d'assez concret, matériel, que sur de l'affectif. Et c'est vrai qu'il y a une époque, pas si lointaine que ça, je crois que c'est après les années 60, l'invention du crédit.
Tout à fait.
On attendait d'avoir suffisamment d'argent pour s'acheter. Alors j'ai dit le vélo, mais ça pourrait être la machine à laver, assez récent aussi. Mais...
non, mais l'exemple montre bien que c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on doit rester tout le temps dans la satisfaction immédiate? La satisfaction immédiate, c'est bon pour un tout petit, et encore. Moi, je me suis souvent battu en disant, faites attention, le tout petit, il faut une régulation entre la demande de satiété et puis la personne de la maman qui va réguler ça. Mmh. Donc même tout petit, on ne peut pas toujours tout donner à l'être humain.
C'est pour ça que je me permettais ce parallèle des 9 mois de grossesse.
Exact.
Où en effet, alors après c'est la question, est-ce qu'on est conscient ou pas quand on est un fœtus, on ne va pas rentrer dans ce débat qui n'a rien à voir avec le sujet de la frustration, mais pendant 9 mois, on est nourri, logé, et c'est merveilleux, et puis tout d'un coup, on sort du ventre de sa mère. Et là, on a pu tout de suite, c'est-à-dire que le bébé,
L'enfant ne sourit pas quand il naît. En général, il crie. Il crie non seulement parce qu'il y a le phénomène d'air qui rentre dans ses poumons, mais il crie aussi parce que ça doit être déplaisant tout d'un coup, cette atmosphère, de plus être dans le ventre de la maman, nourrie, logée, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il est souhaitable que l'enfant très rapidement retrouve une sécurité affective, de la valorisation, de l'affection, de la protection, du câlin, et ne pas perdre de vue qu'il a besoin aussi de s'armer pour les choses difficiles. Et les neurosciences nous donnent raison dans le sens où on sait maintenant que c'est le fameux striatum, le noyau strié dans le cerveau, qui guide l'humain, comme vous l'avez dit, c'était pour se nourrir, c'est pour se défendre, c'était pour procréer, c'était pour jouir de la vie. Mais si on ne met pas un peu de cortex là-dedans, c'est-à-dire si on n'arrive pas à réguler ce fameux striatum, bah regardez tous les gens qui tombent dans la facilité de la satisfaction immédiate.
Dans l'addiction.
Les addictions, je suis tout seul, je fais ce que je veux, toujours plus, etc. Et ça rend excessivement malheureux. Donc la frustration participe à la construction psychique. Oui.
Voilà, et dans une société qui s'appelle société de consommation, c'est d'autant plus difficile de reparler de frustration, puisque tout nous invite à consommer. Alors que je suis persuadée qu'on est... Enfin, si on réfléchit, on a tous acheté depuis un mois des choses dont on n'avait pas besoin.
Oui. Et puis si le cerveau reptilien est en train d'augmenter, regarde... Pareil, quand je vois que ça m'appelle en famille sur WhatsApp ou je sais pas quoi, j'ai le réflexe de regarder la dernière photo de mon fils aîné qui me dit que la petite est à l'école, etc. Mais ça, par contre, c'est sympathique, mais ça nous met tout le temps dans l'immédiateté. C'est-à-dire, je ne peux pas attendre quelque chose. Je veux une information, je veux savoir l'âge de Brad Pitt, boum, je l'ai dans les 10 secondes, je veux savoir où sont mes enfants, pouf, j'ai des photos du lieu de vacances, je veux m'instruire sur quelque chose. C'est immédiat. Il y a des bonnes choses. Mais par contre, oui, ça amplifie ce fameux striatum cerveau reptilien qui fait qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on est complètement conditionné à stimulus-réponse. Donc je ne dis pas qu'il faut écarter tout ça, vivre dans une grotte, et dans des temps, je ne sais pas quoi, monastiques. Mais il va falloir réguler ça, faire attention, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Comment faire? C'est aussi par l'éducation au départ, et puis aussi essayer de freiner soi-même cet instinct normal d'immédiateté.
Alors Didier Pleu, vous qui êtes très dans le cognitif, est-ce que vous pourriez par exemple donner une idée ou un conseil, ou pourquoi pas même un exemple, à ceux qui nous écoutent pour savoir si on a tendance à accepter ou pas la frustration? Quels seraient quelques indices, les clés?
L'indice, c'est l'émotion, et en général l'émotion dite d'intolérance ou frustration, si on en souffre un peu, c'est quand même très souvent la colère. Donc effectivement, si on a des petits pétages de plomb sur des choses insignifiantes, c'est quand même un signe. Qu'est-ce qui se passe là? À chaque fois, je suis très surpris quand je roule dans Paris, mais c'est vrai que là, on voit effectivement des gens qui sont prêts à ouvrir la fenêtre, enfin la vitre de la voiture, parce qu'il y a une fausse manœuvre ou le feu passe pas assez vite au rouge, etc. Je crois que ça, c'est un repère. Si on se dit dans sa vie, tiens, c'est drôle, hier soir pendant le repas, j'ai été énervé 4 ou 5 fois sur un petit truc, quoi. Les pommes de terre étaient pas assez cuites, ou mon gamin coupait la parole, je sais pas, ou au boulot, il y a mon collègue qui me respecte pas, ou il y a un dossier qui m'arrive qui est trop dur, ou la nouvelle instit, je la trouve pas sympa. Bref, si on a quelques petites colères comme ça, non seulement exprimées, mais rentrées, c'est signe qu'il se passe quelque chose. Et dans ce cas-là, le modèle, c'est, regardez bien l'activateur, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas contente parce que l'instinct de votre petite fille a une drôle de tête. Et là, ça va être, elle va être méchante, elle va être sévère, je veux pas que mon enfant souffre, etc. Ça, c'est de l'intolérance aux frustrations. C'est pas simplement pour soi, c'est aussi tout un scénario qu'on a dans la tête, c'est-à-dire on ne veut pas que la frustration existe, ni pour soi, ni pour ses petits, ni pour personne.
C'est intéressant parce que vous faites le parallèle quelque part entre frustration et intolérance.
Exact.
C'est intéressant, oui, mais le mot intolérance, c'est peut-être encore plus apte à être compris par tout le monde que frustration.
Parce que la frustration, la vie, ça, on a dit, c'est un rôle tellement, enfin, c'est une définition tellement négative qu'on ne comprend pas que si on ne l'a pas inclus quelque part, si c'est pas intégré dans sa vie, effectivement, on devient intolérant à ce moment-là. Si un enfant a toujours été habitué à se lever à l'heure qu'il voulait, à s'habiller comme il voulait, ou à faire ce qu'il voulait à la maison, il y a de grandes chances qu'il n'accepte pas les reproches ou les interdits d'un instituteur. C'est-à-dire que, comme il n'a pas été frustré à la maison, il va être très intolérant à la frustration demandée par l'autre.
Alors justement, je vais prendre un exemple qui, à mon avis, va parler à tout le monde. Je vais prendre l'exemple de l'intolérance dans le couple. Mmh. On vit à deux, Didier Pleu. On vit à deux depuis 25 ans. Et moi, ça fait 25 ans que je ne supporte pas que vous mettiez les coussins du canapé à tel endroit. Oui. Et moi, je les remets toujours à l'autre endroit. Et ça m'énerve et je ne supporte pas. C'est quelque part un refus de vous accepter, d'accepter que l'autre fasse autrement que nous.
un refus de la réalité de l'autre, c'est-à-dire à ce moment-là, on n'est plus capable d'empathie et puis on n'est plus dans l'acceptation. Au lieu de se dire, j'aime pas son côté bordélique, il fait pas attention à mon côté
toc. Vous êtes d'accord que vous êtes bordélique, hein ?
Oui, vous avez vu la suite. Voilà, il y a aussi un côté toc quelquefois dans le rangement, pourquoi pas. Mais ça va être pareil, ça va être le mari qui supporte pas le côté très rangé de son épouse. Alors je dis pas que c'est féminin ou masculin, mais l'acceptation, c'est pas de dire, oh c'est super chouette, j'adore quand il faut mettre des pantoufles et
d'accord, mais ça c'est quelque chose qu'on comprend tous. On a tous un petit peu d'intolérance à des manies qu'à l'autre, et en même temps on va passer outre. Mais si ça devient à chaque fois des scènes de ménage, c'est qu'on est
resté fixé là-dessus. C'est qu'on se dit ça ne doit pas exister comme ça. Elle ne doit pas m'enquiquiner, à mettre du désordre, à me parler comme ça, à me négliger comme ça. L'acceptation, c'est pas se résigner, mais c'est accepter que quelquefois, même la personne que l'on aime, elle est frustrante dans son tempérament, dans son histoire, dans ses scénarios, dans ses attentes. Et l'acceptation, c'est de se dire, j'aime pas ça chez elle, mais il y a tellement d'autres choses qui sont sympathiques que grosso modo, ben, c'est vivable. Alors que l'intolérance aux frustrations, c'est non. Ce truc-là fait que tout va exploser.
Oui, et c'est pour ça que les couples se quittent de plus en plus. À cause de cette...
Je l'aime plus. Et quand je leur demande pourquoi, il y a que l'intolérance aux frustrations. C'est ou parce qu'il y a une baisse du désir dans le couple, ou parce que elle cause pas gratifiante comme il voudrait, ou c'est parce que monsieur n'est pas assez sécurisant, etc. Sur un point de personnalité, le couple explose. Parce qu'il n'y a pas cette acceptation de se dire, j'aime pas ça chez l'autre, mais est-ce qu'on peut construire quelque chose?
Donc vous voyez à quel point c'est important aujourd'hui de faire 2 heures sur cette fameuse frustration pour vous aider à continuer à vous aimer. On se retrouve dans un instant avec vos témoignages, bien sûr, sur Sud Radio 0826. 300.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et je vous conseille le livre de Didier Pleu, il vient de sortir en poche, il est tout mignon, ça s'appelle Le complexe de Tétis, j'arriverai jamais à le dire, c'est marrant, hein, pourtant je me suis entraînée. C'est aux éditions Poche, Odile Jacob, voilà, moi je l'avais lu en brochet, mais je le relirai volontiers en poche. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, vous avez un fils de 8 ans, vous lui apprenez la frustration?
Ouais, enfin, j'essaie.
C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir à Didier Pleu.
Oui.
Bah, c'est pas toujours facile, j'avoue. Et j'avais une question pour Didier Pleu. C'est que du coup, mon petit bout de chou de 8 ans, il vit en garde alternée une semaine chez son papa et une semaine chez moi. Et le papa, contrairement à moi, je pense par facilité, puis de par son éducation, il reproduit la même chose. Du coup, ne joue pas du tout sur la frustration. Si il a pas envie de manger ses brocolis, ben il va lui faire de la purée. Enfin, voilà. J'exagère peut-être un peu parce que il y a aussi selon comment le papa est. Voilà, parfois il va quand même tenir, mais c'est pas pour l'enfant, c'est parce que il a plus de pâtes dans le placard, donc ce sera des brocolis ou rien. Mais je veux dire, d'une façon globale, il est beaucoup moins dans la frustration que moi. Donc j'ai maintenant un gamin de 8 ans qui me dit je veux rester chez papa parce que chez papa il y a pas de règles. Voilà, ce genre de choses quoi. Donc c'est d'autant plus difficile.
Oui, puis c'est difficile de passer pour le croque-mitaine, la mère fouettard, quoi. Surtout quand votre enfant va pas vous dire, maman, je suis très heureuse, t'es en train d'appliquer l'histoire d'intégrer la frustration dans mon éducation, j'ai été beaucoup plus fort à l'école, avec mes amis et dans la vie. Il va pas vous dire ça. L'enfant, il voit un résultat immédiat. S'il aime pas les brocolis, il préfère effectivement des spaghettis de nouveau. Donc là, c'est vrai que c'est le grand souci quand il y a une garde alternée, mais pas simplement quand il y a une séparation dans un couple, c'est aussi le problème dans un couple uni. C'est-à-dire que c'est très rare que les deux parents soient d'accord pour intervenir et créer un peu de déplaisant à l'enfant. Et surtout sur la nourriture, souvent c'est ça. Il y en a un qui n'aime pas trop, ça lui rappelle des sortes de gavages quand il était petit, d'obliger de manger telle chose. L'autre, ça va être sur les horaires de coucher, parce que petit, t'es pas habitué à se coucher si tôt. Un troisième, c'est sur le choix des vêtements. Bref, c'est très dur d'être cohérent. Et pourtant, c'est la règle fondamentale. Si on souhaite que l'enfant intègre bien les frustrations à la maison, il faut qu'il y ait un accord. Parce que quelquefois, moi je cherche toujours, quand je vois un enfant qui a des difficultés avec tout ce qui est contraintes, déplaisirs, limites, interdits, je demande toujours où est le maillon faible. Et très souvent, le maillon faible, c'est un des membres du couple qui cède Alors c'est vilain, mais je l'appelle le collabo, parce qu'en général, quand l'enfant est un petit peu tyrannique, mais collabo dans le sens, les enfants ont tellement des comportements coercitifs par moment, c'est-à-dire de piquer des colères, de faire des menaces, de dire je ne t'aime pas, que certaines personnes un peu plus anxieuses vont collaborer pour pas subir tout ça. Donc je demande toujours où est le maillon faible, et ça peut être un membre du couple, mais c'est aussi, attention, il y a les grands-parents, hein, ceux de ma génération, alors là, ils sont pas mauvais du tout pour détricoter tout ce que vous avez essayé de tenir dans la semaine. Au niveau de réguler les écrans, pas faire n'importe quoi. Donc, il faut une grande cohérence. Parce que sinon, c'est vécu, comme ça a toujours été vécu, la frustration, elle est donc déplaisante, donc c'est pas normal. On n'est pas là, on vit pas pour être embêté. Et l'enfant va bientôt s'inscrire là-dedans. Mais rassurez-vous, pour l'instant, immédiatement, il préfère sans doute les non-interventions de son papa, mais je peux vous dire que dans quelques temps, il verra bien que...
Vous lui avez fait du bien.
En classe, elle lui a donné des petites habitudes de vie, c'est bien maman qui lui a donné ça sur l'alimentation, sur la sieste, sur les rythmes, sur les habitudes.
Les écrans, oui.
Voilà, et ils savent très vite ça. Mais pour l'instant, oui, vous allez être vous-même très frustré.
Et alors, pour donner quand même un peu d'espoir aux autres auditeurs, j'ai récemment eu, du coup, vraiment pas cédé. Alors, quand il revient de chez son papa pendant 2 jours, c'est un peu compliqué à remettre un peu d'ordre là-dedans. J'ai pas cédé sur quelque chose qui me tenait à cœur. C'est qu'il avait mal parlé à ma mère. On était en vacances, donc à sa grand-mère. Parce que à 8 ans, ça devient quand même déjà un peu insolent. Enfin, je lui ai dit que il ne pourrait pas revenir avec nous, jouer, manger, parce que ça a duré quand même 3 ou 4 heures l'histoire, tant qu'il se serait pas excusé. Mmh. Et ça a pris un temps incroyable, donc 4 heures. Et quand il l'a finalement fait, pas tout de suite, mais le soir, il m'a dit « qu'est-ce que je t'aime, ma maman, je t'aime plus que tout ». Le lendemain, il parlait de tout et de rien, des idiots pollueurs, et il me dit « tu sais, il y a plein d'idiots dans la vie, maman, il y a les idiots qui polluent, puis il y a les idiots qui savent pas s'excuser ». Enfin, voilà, dans les 2-3 jours qu'on suivit, il m'a donné des indices qui m'ont fait dire « mais en fait, j'ai bien fait de pas lâcher ».
Évidemment, oui.
Et bon, là, c'était un exemple un peu.
Non, mais c'est bien.
Dur,
non, c'est un exemple très concret. Pendant 4 heures, il a boudé.
Oui.
Hein, ah ouais, vraiment. Je le ferai pas. T'as pas le droit de me forcer.
Et vous avez pas lâché. Et c'est lui qui a lâché. Et... parce qu'à 8 ans, c'est vous qui avez le pouvoir.
Et en plus, ça rejoint ce qu'on appelle nous la loi de la frustration. C'est un grand mot, mais si on accepte à un moment donné d'être dans le rouge, dans le négatif, dans le conflictuel, dans le déplaisant, dans le court terme. C'est-à-dire, quand vous tenez bon devant votre enfant, bah oui, ça peut durer une bonne heure, etc. Mais nous, on va appeler ça du court terme, parce que vous avez vu, après, dans le long terme, là, vous obtenez des tas de bénéfices. Et ça, c'est la fameuse loi de frustration. Si je veux perdre du poids, bah, je me fais mal à pas manger ce que je veux en sucre le midi, puis après, je suis content, mais beaucoup plus content et beaucoup plus longtemps content au niveau de mon poids, etc., et de mon physique et autres. Et la loi de la frustration, c'est ça. C'est l'inverse de immédiateté, c'est-à-dire est-ce que j'accepte de me faire du déplaisant immédiatement, parce que derrière c'est bien, c'est le musicien qui fait du solfège qu'il adore
le
linguiste
le sportif qui s'exerce
tous les jours, c'est quand on monte à cheval et qu'on essaie de faire, j'y connais rien, mais quand on fait du saut, je suppose qu'il faut des heures et des heures et des heures d'entraînement au pied, le truc, le moindre geste, qui est pas forcément marrant, mais pour quelle après docilité de l'animal, etc., et quelle harmonie.
Tout est comme ça, le sport,
la musique, la créativité, les langues et l'école. Souvent, quand on dit que ça va pas à l'école, mais l'école, c'est un lieu de frustration. Et je suis ravi aujourd'hui, Brigitte, parce que j'ai lu un article dans Le Monde hier. Ça fait 25 ans que je n'arrête pas de dire, pour avoir été un peu au courant de ce qui se passait dans les pays scandinaves, que les pays scandinaves n'étaient pas un modèle éducatif. Ça rejoignait ce que je disais, puisqu'il n'y a aucune frustration, horizontalité, pas d'hierarchie avec les adultes, etc., du poste d'alto aigu. Et on nous vend en France que c'est toujours le grand modèle. Et dans Le Monde hier, le pays où il y a le plus d'enfants, d'ados qui quittent l'école, c'est en Suède. Enfin, la vérité, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'ados qui sont sur le canapé, dope, etc. Et c'est lié à cette instruction qui est une école trop horizontale. J'ai pas dit qu'il fallait revenir aux blouses grises. Est-ce qu'on peut trouver un milieu?
Non, mais il faut de la verticalité. Il faut toujours pareil, le juste milieu.
Donc, Scandinavie, ils reviennent vers nous.
Voilà. Oui, parce qu'en Scandinavie, moi, je me souviens d'un scandale, c'était il y a 2 ans, on en avait parlé, d'enfants qui, dans le bus, pouvaient taper leur mère si leur mère
Phénomène d'enfant roi déjà, qui hurle, colérique. Mais non, on disait non, il faut intervenir, il faut continuer de communiquer, d'être bienveillant, ça ne marche pas. C'est pas avec tout le monde.
Voilà. D'où la nécessité, Caroline, de tenir bon. Vous avez raison. Bon. D'ailleurs, vous avez été, vous avez eu des messages d'amour de votre fils comme jamais, parce que vous, pendant 4 heures, il était tellement malheureux de bouder.
Oui, puis c'est, après, il n'y a pas que l'amour qui sécurise.
Il m'a quand même demandé, maman, est-ce que si j'avais pas fait les excuses, est-ce que quand même tu m'aurais quand même donné à manger? Parce qu'en fait, du coup, c'était tard du coup, il a mangé à 9h le soir, alors que, il nous a regardé manger, il avait faim, vraiment, c'était. Et donc, il se demandait bien, alors je lui dis, ça dépend, si la grand-mère était partie se coucher, que tu avais pas pu faire les excuses, je t'aurais donné un bout de pain sec. il fallait que tu t'excuses. Alors il me regardait avec des grands yeux quand même. Elle aurait tenu jusque là.
Oui, puis ça le sécurise. On dit toujours que c'est l'amour qui sécurise l'enfant, ce qui est vrai. Quand on n'aime pas un enfant, il y a de grandes chances qu'un déficit d'attachement, ce soit pas très bon. Mais un déficit de frustration, c'est la même chose aussi. Quand il vous a regardé en disant merci maman, etc., etc., il était sécurisé. Il avait des limites. Il savait qu'il faisait pas n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'on va vous dire, c'est un peu du chantage votre truc, c'est dur là, retarder le repas de 4 heures, mais quelquefois il y a des conséquences comme ça. Alors bien sûr on n'a pas dit retourner aux claques, aux fessées et aux maltraitances, mais c'est vrai que c'est nécessaire quelquefois de donner des conséquences, c'est ce que je dis souvent aux parents, mais donner une sorte de code familial, puisque les adultes ont besoin de code fiscal, code pénal, code de la route, code civil, je vois pas pourquoi un enfant n'aurait aucune conséquence quand il transgresse. Mais non, l'enfant, il n'y a que du parler.
Voilà, vous êtes ravie, Didier Pleu. Hein, Caroline va tout à fait dans votre sens et son témoignage, je suis sûre, parle à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Merci Caroline, merci beaucoup de votre témoignage. Dans un instant, vous allez avoir quelques clés pour développer votre intuition grâce à Bruno Denis qu'on retrouve.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Alors la semaine dernière, Didier Pleu, on a évoqué l'intuition et on a fait un peu le rapport entre notre inconscient, quel vilain mot aussi ça, l'inconscient.
L'inconscient existe, mais le conscient c'est mieux.
Voilà, je plaisante parce que je sais, c'est un petit... je vous taquine, absolument. Donc on a fait un petit peu le lien entre inconscient et intuition avec Bruno Denis. Et aujourd'hui, Bruno Denis, vous allez nous donner 2-3 clés pour que chacun d'entre nous puisse développer notre intuition. Bonjour d'abord.
Bonjour Brigitte, bonjour Didier, bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Alors oui, l'intuition ça se travaille et ça se travaille très très bien. Donc je vais vous donner des clés très concrètes que l'on peut faire vraiment au quotidien. Je vais vous les donner de façon croissante. Je vais vous donner un petit exercice.
C'est-à-dire croissante, ça veut dire la plus facile d'abord.
La plus facile d'abord et la plus compliquée en apparence pour finir. Mais évidemment, plus on avance, plus on évolue, plus c'est intéressant naturellement. Alors, il y a une petite chose à faire toute simple le soir au coucher,
Oui.
Pour provoquer ce que l'on appelle les intuitions matinales. Alors, qu'est-ce que c'est les intuitions matinales? C'est au moment du réveil, on est encore dans des ondes alpha et bêta qui sont des ondes longues et qui nous coupent un petit peu des émotions négatives et des problèmes. Au moment du réveil, il faut pas se réveiller tout de suite, il faut pas sauter du lit. Il faut laisser venir à soi les intuitions. Alors, pour qu'elles viennent, on se programme un petit peu la veille au soir. On se dit simplement, avant de s'endormir, demain, je laisserai venir à moi les intuitions nécessaires pour mon évolution.
Alors, par exemple, on ne sait pas trop si on va accepter tel boulot plutôt que tel autre, parce qu'on a le soir avant de s'endormir on se dit tiens je vais voir ce qui serait mieux pour moi demain matin en quelque sorte.
Par exemple, ça c'est oui effectivement on s'en sert pour ça, mais c'est souvent plus banal que ça au départ, l'exercice est progressif. C'est-à-dire que les premiers temps quand on fait cet exercice...
Donc c'est demain, est-ce que je mets ma robe jaune ou ma robe bleue?
On peut faire ça également, mais si on est plus large dans son approche, parce qu'il faut être très souple.
C'est pour ça, vous savez, c'est l'intuition, c'est un petit peu comme l'émotion, ce sont des choses très abstraites pour la plupart des gens, Bruno Denis. C'est pour ça que j'essaye de recentrer. Donc, est-ce que vous pourriez donner un exemple concret?
Alors, on peut donner un exemple concret, mais je préfère insister tout de suite sur le fait que pour démarrer, il ne faut pas se programmer. C'est-à-dire qu'on se dit, demain, je laisse venir mes intuitions.
D'accord, on ne sait pas sur quoi demain matin on va avoir une intuition.
Voilà, on laisse partir les flux, comme on dit, on se laisse aller.
D'accord.
Très souvent, au matin, quand on se réveille, on se dit, tiens, effectivement, aujourd'hui, je vais appeler telle personne, je le sens bien. Ou par exemple, j'ai intérêt à faire telle ou telle chose aujourd'hui.
Donc, on se réveille le matin et c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, qui est une première clé pour développer son intuition.
Voilà. Et il ne faut surtout pas, à ce moment-là, se juger, se dire « je fais une erreur, c'est n'importe quoi, ça ne va pas du tout, etc. » Non, on laisse venir et on voit un petit peu ce que l'on reçoit. Après, effectivement, quand on avance dans cet exercice et qu'on a l'habitude de se programmer, eh bien, on peut se demander si demain on mettra sa robe jaune. Enfin, moi, je me suis jamais posé cette question, Brigitte. Hein.
Mais vous avez tort. Vous avez tort. Moi, je vous vois très bien avec une robe jaune, Bruno Denis.
Maintenant que vous le dites, je vais peut-être y penser.
Ça va très bien au brun, le jaune.
Il paraît. Je vais essayer ça et je vous enverrai une photo. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, on peut effectivement se programmer de plus en plus quand on a l'habitude de cet exercice. Mais ça, c'est très accessible, c'est très simple à faire et en général, déjà au bout de
deux. Donc, il faut le faire pendant combien de temps?
J'ai envie de vous dire tous les jours.
Oui, bien sûr, mais pendant combien de temps avant de pouvoir se programmer?
Quand on débute, on le fait en général un mois, à peu près.
D'accord.
Et quand on a l'habitude, ça devient un automatisme, et c'est quelque chose que l'on fait systématiquement, un peu comme un jeu. Mais plus qu'un jeu, c'est un peu comme une rencontre matinale avec soi-même, en fait, une part de soi-même. C'est ça qui est très
important. Didier, vous avez l'air d'acquiescer, ça vous paraît cohérent?
Non, j'acquiesce, moi j'aime bien cette harmonie avec soi. Des fois, effectivement, on n'écoute pas assez ce qu'on ressent. On est trop dans, justement, alors là, cette fois-ci, trop dans le cortex, dans le cérébral, dans la logique mathématico-mathématique. Voilà ce que je dois faire, ce qu'il faut faire. Et logiquement, ça va se passer comme ça. L'intuition, c'est laisse passer un petit peu ce que tu ressens, des émotions positives, peut-être, qui vont te faire décider des choses que tu n'aurais pas eu l'idée de faire à cause de ta logique mathématique qui te l'interdit.
Finalement, c'est une ouverture à ses désirs, au sens large
du terme.
Je pense, mais
oui. Oui, je pense que c'est être en harmonie avec des souhaits, des désirs, des... Oui, oui, oui.
Donc demain matin, si j'ai le désir de faire une fellation, Bruno Denis, ça peut...
Je pense qu'il faut toujours suivre ses intuitions, Brigitte.
Ben de ce côté-là, oui, vaut mieux. Oui, ça, c'est...
Bref. Parce que quelque part, je prenais cet exemple très concret, hein, évidemment, mais quelque part, on n'est pas loin du désir, non? Si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Vous remarquerez, oui, tout à fait, vous remarquerez chez les garçons et même chez les femmes, d'ailleurs, le matin, souvent, bon, il y a les fameuses érections matinales, hein, je pensais que vous alliez rebondir justement sur les intuitions matinales, mais il n'y a pas de souci.
Mais c'est pas forcément signe de désir.
Non, mais
rebondir,
on risque une fracture de la verge. Hein, si on rebondit sur une érection matinale.
Voilà, puis on risque d'être pas dans la bonne intuition, parce que l'autre peut très bien avoir envie de dormir, tout simplement.
Absolument. Mais c'est un moment où, effectivement, le rapport corps-esprit est très subtil. Mmh. Le moment où on se réveille, en fait.
D'accord.
Et quand on veut travailler sur l'intuition, on commence déjà par ça. Et ça, c'est vraiment accessible à tout un chacun. On peut vraiment le faire sans aucun problème et ça marche très très bien.
D'accord. Bah, demain matin, je ne vais pas dire que je penserai à vous, Bruno Denis, parce que ce serait déjà une injonction, mais demain matin, je vais essayer de voir quel sera mon premier
pensée
désir.
Intuitive. Hein, oui,
parce
oui.
que c'est, quelque part, c'est ça. C'est notre premier, enfin, notre première pensée qui arrive, quoi. Et c'est souvent quelque chose j'imagine, d'agréable, non?
Ça peut être agréable, ça dépend de la période que l'on traverse, hein, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, quand on se réveille, c'est extrêmement rare quand on se réveille avec des tensions très marquées. Mmh. On sort, a priori, d'une phase de sommeil où on est relativement apaisé. Et si on travaille sur l'intuition, c'est rare qu'on reçoive de mauvaises intuitions. On reçoit souvent de bons conseils. Et on a plutôt une partie de notre cerveau qui nous conseille bien et une autre partie qui nous conseille mal. Ça, c'est certain. Mais le matin... il est clair qu'on reçoit plutôt des influx favorables, positifs.
D'accord.
Avec cet exercice, en tout cas. Hein.
Bon, ça c'est clair, je crois que tout le monde a compris ce premier exercice. On va passer au deuxième, et puis les autres, ce sera la semaine prochaine. Hein, parce que
oui, alors je vais vous donner... voulez-vous que je vous donne un exercice qui est un peu plus compliqué, mais très efficace, ou un exercice médian que tout le monde peut faire également vite?
On va rester simple, hein. Pour l'instant on est des débutants, okay. Bruno Denis.
Il n'y a pas de problème. Alors, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, sans s'en rendre compte, mais pour que ça fonctionne bien, il faut forcer un petit peu le trait. C'est-à-dire cultiver les avis spontanés sur des situations ou sur des personnes ou vis-à-vis de personnes. Je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple dans le train et vous pouvez vous demander, en regardant la personne sans la fixer évidemment, est-ce que cette personne qui est assise en face de moi est seule? Est-ce qu'elle est mariée?
Est-ce qu'elle baisse bien?
Par exemple, est-ce qu'elle est dans un métier de bureau ou de contact? Est-ce qu'elle voit de la clientèle?
Donc là, on laisse fonctionner notre imaginaire en quelque sorte.
Voilà, on laisse fonctionner l'imaginaire et ce qui est très important dans cet exercice, c'est de ne pas chercher à avoir les réponses. en demandant à la personne, évidemment, vous êtes seul, vous travaillez dans un bureau, etc. Ça, c'est,
je pense qu'en effet, si j'ai un homme en face de moi et que j'ai imaginé s'il baisait bien ou pas, je ne vais pas aller lui poser la question, ce serait me mettre dans une situation encombrante.
Oui, mais vu votre intuition, Brigitte, je sais que vous avez déjà la réponse, a priori.
Oui, d'ailleurs, il y a longtemps que je ne me plante plus sur ce point, c'est vrai.
Voilà, et cet exercice, il marche très bien. Alors, c'est un exercice au long cours.
Et est-ce qu'on peut le faire à deux, par exemple? Est-ce que c'est un exercice qu'on peut faire en couple? Par exemple, on est en couple au restaurant, et est-ce qu'on peut s'amuser à regarder un autre couple et dire, tiens, toi, tu imagines qu'ils sont ensemble depuis combien de temps ou...
Mais en vérité, on le fait déjà, tout ça, Brigitte, vous le savez bien. C'est très souvent, on s'amuse à regarder les gens. Bon, moi, je suis un intuitif, ma matière première, c'est l'autre. Hein. Donc, j'adore observer les gens, j'adore imaginer les choses.
Oui, enfin, vous les percez dans leur, dans leur essence.
Vous les scannez.
Vous les scannez, oui. Merci, Didier Pleu. Bon,
on va dire ça comme ça. Disons qu'il m'intéresse, voilà. C'est
donc
ça.
On exerce son intuition en... Est-ce qu'on... Oui, absolument, en observant le
en
monde qui nous entoure.
En développant des scénarios. Et ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est qu'au fur et à mesure que l'on développe des scénarios sans avoir de réponse, on habitue le cerveau à des scénarios qui sont virtuels, fictifs, mais qui, à un moment donné, rencontre l'intuition, une autre intuition qui est relativement subtile et qui, elle, sait les choses. Et très souvent, quand on travaille cet exercice-là, au bout d'un moment, après, quand on se retrouve dans une soirée avec des amis et qu'on a l'habitude de faire cet exercice-là, on scanne rapidement les personnes, effectivement, et on se surprend, au bout d'un moment, à dire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de dire vis-à-vis de la personne. Tiens, tu as l'air d'être dans une bonne période ou tu es en train de changer de travail en ce moment. Parce qu'on a habitué son cerveau à fonctionner comme ça de façon virtuelle. Et quand on rentre dans le réel, on obtient d'excellentes informations sur les situations et les personnages.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais je vais encore donner des clichés, mais j'ai l'impression que beaucoup de femmes sont beaucoup plus intuitives que les hommes parce que souvent, nous, on nous a appris une certaine logique... cérébrale, etc. Je me souviens, quand je faisais des recrutements, je demandais toujours à ma femme d'être avec les candidats dans la salle d'attente. Moi, j'avais des tests, j'avais un protocole d'entretien hyper carré, je savais exactement les questions que j'allais donner, poser, contradictoires, etc. Et souvent, je restais un petit peu quoi. J'avais tellement une multitude d'informations entre le test et mes questions et l'entretien que je ne savais pas trop dire est-ce qu'il est, je sais pas quoi, leader, celui-là, si c'était un recrutement de manager, est-ce qu'il est anxieux ou pas. Et souvent, ma femme me disait, non mais t'as pas senti qu'il était comme une petite souris dès qu'on lui parle un peu fort. Toutes ces choses intuitives, je ne les remarquais même plus parce que j'étais dans mon protocole logique.
Vous étiez accroché
au diagnostic.
Au rationnel.
Oui, tout à fait. Et ça, la pensée, quand vous disiez la vie spontanée, moi j'y crois. La vie spontanée, alors attention, parce que quelquefois on peut avoir aussi des visages qui ne nous plaisent pas. On a la vie spontanée un peu stupide. Il faut faire attention. Quelquefois, il faut remettre un peu quand même de...
Absolument, et c'est là où les exercices sont importants, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner assez longtemps. Alors assez longtemps, l'intuition, elle commence à s'immiscer en nous, déjà au bout d'un mois ou deux. Si on travaille correctement, ça vient très très vite. Mais il faut d'abord s'entraîner avant de verbaliser les choses, ça c'est très clair. Mais oui, c'est peut-être plus féminin comme logiciel, parce que les femmes sont plus dans l'émotion, croit-on. Mais je peux vous garantir que ça marche sur tout le monde, l'intuition. C'est une question d'autorisation mentale, en fait. Et sociétal, évidemment, aussi, parce que, bon, les garçons, longtemps, n'ont pas été élevés comme les filles, forcément, mais ça va de plus en plus vers l'ouverture. C'est très clair. D'ailleurs, j'aimerais vous citer une phrase de Jean-Sébastien Bach, si vous le permettez, qui était donc un homme, et qui disait à propos de l'intuition, « L'affaire n'est pas de la trouver, mais plutôt de ne pas la piétiner le matin en sautant du lit. »
C'est joli. Oui. Et ça correspond bien, en effet, à la première clé que vous nous avez donnée. Voilà. On continuera la semaine prochaine à vous proposer des clés pour que vous ayez un peu plus d'intuition. Merci beaucoup, Bruno Denis, en tout cas. Merci beaucoup. Et on continue avec Yves, qui va tester son quotient sexuel. Bonjour Yves.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous. Vous allez couper la radio, parce que sinon on va avoir de l'écho et ça va être difficile. Donc, voilà. Première question. Yves, qu'est-ce qu'une masophallation ?
Une masophallation ?
Fallation, masophallation. C'est un terme très technique pour quelque chose, pour une pratique sexuelle assez connue. Je n'ai pas dit assez répandue d'ailleurs.
Je ne la connais pas, mais en cherchant à partir du
mot, bien sûr, oui.
C'est une douleur.
Non, c'est pas douloureux du tout. Non, c'est pas douloureux du tout, Yves. Je pense même que les hommes apprécieraient plutôt que
les femmes.
C'est-à-dire que c'est les femmes qui font à un homme. Masofellation.
Masofellation.
Alors, maso, c'est sûr que c'est pas écrit avec un S, mais avec un Z. Masofellation.
Non. Eh bien, j'avoue que j'ignore. Hein. Maso avec un Z.
Du grec masos. L'aube de l'oreille, non, je dis n'importe quoi.
Non, mais ça doit venir du grec, en effet, oui, sans doute. Mais j'avoue que je ne sais pas exactement d'où ça vient, moi. J'ai ma question sous le nez, mais là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Alors, masofellation. On n'est pas loin de fellation, en effet, hein, parce que je pense que ça vient de masof. Enfin, bon, je ne sais pas. Bon, c'est un truc que les femmes font aux hommes.
Oui. On attend, Brigitte.
Ma, qu'est-ce qui commence par ma chez
mamelle. Donc, c'est une caresse avec les seins.
Eh bien, voilà, vous voyez qu'on avance, hein, si on réfléchit un petit peu.
J'ai un QI de combien, là?
Vous voyez, Yves, ma, ça vient de ma mère ou de mamelle, je ne sais pas. En tout cas, ça vient de. Voilà, Didier vous a donné une piste. Alors, masofellation, c'est quoi, Yves?
Eh bien, une succion des seins douloureux. C'est de très douloureux.
Non, vous êtes obsédé par la douleur, Yves.
Vous mordez sa mère, bébé.
Mais non, pas du tout. C'est une caresse avec les seins. De quoi?
Du visage.
Oh, du visage. Non, c'est une caresse avec les seins. Qu'est-ce qu'on peut caresser avec les seins?
Moi, je suis vertérien. Alors,
descendez un peu.
Le pénis.
Voilà.
Très bien.
C'est une cravate de notaire.
Oh, c'est joli.
Ah bah oui, non, mais l'image est forte, la cravate de notaire, c'est fort.
Bah oui, mais une cravate de notaire, c'est une masofellation. Soyons un peu cultivés, quand même. Mon chéri, ce soir, veux-tu me faire une masofellation?
Bon.
Voilà, vous aurez appris quelque chose.
Oui, hein.
Mais c'était peut-être une question un peu difficile, si on connaît pas un peu Mais bon, vous auriez pu quand même trouver, hein, parce que vous aviez eu une aide de la part de...
Oui.
Vous êtes d'accord, non, hein, vous
aviez... sur le S, voilà, de Mazo.
Mais je vous ai dit pourtant que c'était un Z, vous écoutez pas.
Non.
Vous écoutez pas assez, Yves, je vous assure. Alors, deuxième question un peu plus facile, peut-être. Oui. Pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps?
Parce que si...
Parce que c'est beau.
C'est-à-dire pas descendu, y aurait pas entre... on serait une femelle et pas un mâle.
Pas du tout, c'est pas ça du tout la bonne réponse. Non, il y a une raison tout à fait
physiologique,
absolument, pour que les testicules soient à l'extérieur du corps.
C'est pour permettre une sécrétion qui ne soit pas gâchée par le méat urinaire, non?
Bah si, parce que de toute façon ça passe par là, hein, les spermatozoïdes ils passent par le méat urinaire, hein, de toute façon. Ils sortent pas des testicules comme ça.
Normalement, oui.
Normalement, enfin, ma pratique m'a montré ça maintenant. Alors, réfléchissez un petit peu. Quelle température il fait et...
C'est la nécessité d'avoir un sperme à la bonne température pour conserver les spermatozoïdes.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il fait moins chaud. Et c'est pour ça qu'ils sont que les testicules qui sont censés donc maintenir les spermatozoïdes en bonne santé, les testicules sont à l'extérieur du corps. Et c'est important de le comprendre parce que par exemple, on dit qu'il faut pas porter des slips trop serrés parce que là à ce moment-là, les testicules ils sont trop au chaud, ils sont trop au chaud, voilà. Et il paraît que ce serait une cause d'infertilité,
ouais.
Voilà. Donc on rame un peu, Yves, hein, quand même. Hein, D'où le kilt.
Si on ferme la porte, il fera toujours aussi froid dehors.
Pardon, si on ferme la porte, il fera... Non, si. Bon.
C'est Pierre Dac qui disait, pourquoi dit-on ferme la porte, il fait froid dehors. Et c'est stupide, parce que même si on ferme la porte, il fera toujours aussi froid.
D'accord, oui, ça y est, j'ai compris. J'avais pas... Alors, dernière question, quel est l'auteur de cette chanson 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Yves.
Georges Brassens.
Eh bien voilà, enfin une bonne réponse, merci. Bon, malheureusement, là, je ne peux pas vous donner la médaille du quotient sexuel parce que ça a été un petit peu difficile. Hein. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est un jeu après tout. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, toujours avec vous au 0826-300-300.
14h-16h, Brigitte Lahaye Sud Radio.
Avec Didier Pleux, nous évoquons la nécessité d'apprendre la frustration, en quelque sorte, pour être un petit peu plus tolérant avec les autres et ne pas croire que tout nous est dû. Lionel, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Pleux.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel, alors ?
Bah, écoutez, moi, c'est ce que j'ai mis en place avec mes filles, hein, maintenant qu'elles sont un peu grandes. Elles ont 16 et 13 ans. Mais depuis qu'elles sont petites, c'est une éducation, on va dire, je ne vais pas dire à la dure, ce serait méchant, bien au contraire. C'est surtout qu'on leur a appris, justement, tout ça, quoi, la frustration, l'envie, qui sont des moteurs, en plus, qui sont exceptionnels dans la vie. C'est-à-dire que quand vous êtes frustré, essayez de transformer, finalement, cette colère, parce que c'est une colère, hein, la frustration, et il faut essayer de le transformer, justement.
Alors, ça, c'est, je crois qu'on va, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Sure. La frustration, si elle n'est pas intégrée, provoque de la colère. Et c'est vrai qu'au début, un enfant qu'on va frustrer peut être un peu colérique. Ensuite, un adulte qui a appris la tolérance à la frustration, il n'a plus aucune raison d'être colérique.
Il n'y a plus en colère, mais par contre...
Il sera agacé, énervé, mais pas forcément en pétage de plomb. Et...
Non, je n'ai pas dit ça. Par contre, après, du coup, même quand on devient adulte, la frustration, elle se transforme en un moteur assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'avoir, ça vous donne aussi tout un tas de ressources que des fois, vous ne savez même pas d'où vous les sortez pour justement obtenir, que ce soit un travail, que ça soit...
Vous voulez dire que quand vous avez envie d'avoir un rapport sexuel avec votre femme...
Vous allez développer des trésors de stratégie de désir. Oui, voilà, à la limite, allez, du coup, en tous les cas, on devient un peu plus ingénieux, on va dire. Ok,
oui.
On va dire,
on devient créatif.
On devient un peu plus ingénieux, on devient un peu plus créatif, un peu plus ingénieux. Et les enfants, finalement, quand vous arrivez à leur éduquer ça, ça devient vraiment après une grande force pour eux, parce que concrètement, ils deviennent déjà un beaucoup plus autonomes. Et puis, ça leur demande un effort pour être un peu plus malin et un peu plus créatif, oui, clairement. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose à absolument canaliser. Moi, je suis surpris de voir le nombre d'enfants et même des fois d'adultes que quand on leur dit non, je suis un ancien conducteur de chantier et c'est vrai qu'il y en a certains quand on leur dit non à quelque chose, à une demande, dans quelques cas, on a affaire à des pétages de plomb comme s'ils étaient en fait des enfants un petit peu attardés où finalement ils veulent pas un non.
Oui, vous voulez dire par exemple si un de vos employés vous demande son mercredi après-midi parce que son enfant il a besoin d'emmener son enfant ou je ne sais quoi et que vous lui dites non parce que vous avez vraiment pas la possibilité de le faire parce qu'il y a tel chantier à terminer, parfois vous avez des réactions qui sont surdimensionnées, c'est ça ?
Surdimensionnées et extrêmes, tout à fait. Et là on se dit c'est impossible quoi, atterrit un peu quoi, Et c'est là où on se rend compte quand même qu'il y a eu, à mon avis, un défaut d'acceptation de ce qu'on leur dise, non, tout simplement.
Ce sont des comportements même d'adultes qui sont aussi ce qu'on appelle des caprices. Hein. C'est pour ça que quand certains psys nous disaient qu'il n'y avait pas de caprice chez l'enfant, mais caprice, ça ne veut pas dire qu'il est sadique, qu'il est pervers, qu'il fait tout un truc pour méchamment. Non, caprice, ça veut dire... j'ai envie que ce que j'aime continue. C'est ça l'intolérance aux frustrations. Et si on l'a pas régulé quand on est petit ou ado, il y a de grandes chances qu'à l'âge adulte, effectivement, la moindre contrainte, le moindre interdit, le moindre renoncement, c'est pas du tout bien vécu. Mais sans doute, ce que Lionel a bien compris, c'est que même s'il a éduqué ses enfants à la frustration, il a bien saisi que ça donne aussi du désir, de la motivation, parce qu'on a un objectif à long terme et on va se battre pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas eu tout de suite. Il a sans doute, dans cette espèce d'apprentissage de l'effort, etc., inclut l'amour, parce que, souvenez-vous, c'est pas l'un sans l'autre. Hein. Si on ne fait que du frustrant, du déplaisant, de l'objectif de vie, de la motivation, de l'effort, oui, il faut aussi ce côté très sécurisant qu'est le câlin, l'amour, la relation, la communication, etc. C'est jamais l'un sans l'autre. Amour et frustration.
On est bien d'accord. Et il faut bien en plus expliquer pourquoi. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit non ? Parce que concrètement... les enfants sont tout à fait aptes à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit non et pourquoi on se tient à un non.
Alors voilà, je suis d'accord qu'il faut expliquer, mais ça dépend comment et à quel âge. Parce que je vois par exemple maintenant des parents qui expliquent à des enfants de 3 ans choses qu'ils sont de toute façon incapables de comprendre. Un enfant de 3 ans, c'est blanc ou c'est noir. On ne commence pas à lui rentrer dans un grand discours.
Non, non, non. Tout je parlais facile. De la préadolescence.
Et puis à l'âge adulte, il y aura aussi des choses comme ça. Il y a des choses qu'on juge injustes, mais qui existent. Quoi. C'est-à-dire, on ne va pas forcément demander toutes les 10 minutes à son patron, un collègue de travail, pourquoi il vous a mal parlé. Quoi. Il y a des gens qui ne vont pas justifier. Donc mon histoire, ce n'est pas de se dire j'accepte tout bêtement, mais c'est aussi la vie, ça. Il n'y a pas tout le temps des explications, des tas de choses, parce que le principe de réalité, ben voilà, c'est comme ça. Il y a des ouragans, et ce n'est pas terrible. Mais on va pas... Pourquoi ça me tombe dessus? On n'aura pas d'explication. Hein.
Évidemment, c'est important aussi d'accepter le principe de réalité, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Et
Même s'il est dur, même s'il est difficile, quelquefois on ne peut rien contrôler, on ne peut rien comprendre, parce que c'est la vie. Et si on cherche à expliquer la finitude, la fin de vie à un enfant de 4 ans, effectivement, Brigitte, vous avez raison, là, c'est la grande frustration, mais l'enfant ne va pas comprendre. Donc il faut mieux lui parler du paradis des chats, du Père Noël et des petites choses d'enfant, non?
Oui, ça me paraît beaucoup plus sage. Merci Lionel, en tout cas, de votre témoignage. On va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer la nécessité d'apprendre qu'on ne peut pas avoir tout et tout de suite. Et je suis sûre que vous êtes tous d'accord, mais peut-être que vous avez envie aussi de nous raconter les moments où ce n'était pas facile d'accepter. Parce que c'est vrai, c'est pas, bien sûr, c'est quand même humain d'avoir envie de tout et tout de suite. Alors la devinette du jour... Pourquoi la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache? Ça paraît peut-être un peu bizarre comme comparaison, mais vous verrez, la réponse est évidente. Voilà, pourquoi la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache? Allez, on fait meuh et on se retrouve tout de suite après les infos.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Didier Pleu et nous évoquons le principe de frustration ou le principe de réalité ou je ne sais quoi, ou l'acceptation de la tolérance. Et on essaye de vous expliquer à quel point c'est important aussi dans notre relation de couple, parce que évidemment notre partenaire ne va pas nous donner tout ce qu'on voudrait qu'il nous donne. Et il va forcément, de temps en temps, nous décevoir, nous agacer un peu, et c'est la vie, c'est comme ça.
Oui, le couple, c'est forcément l'endroit où on voit à quel degré on peut supporter, tolérer la frustration ou pas, puisqu'on part du principe qu'on se met en couple pour le principe de plaisir. C'est-à-dire, on va avoir des enfants, on va s'aimer, on va se désirer, on va faire l'amour, et effectivement, le quotidien, c'est le café qui est trop chaud, qui n'est pas là, ou la soupe qui n'est pas bonne, ou l'autre qui ne s'habille pas comme on veut.
Il a oublié la date de mon anniversaire, etc. Alors, Didier Pleu, vous pouvez le retrouver également dans ce livre qui vient de sortir en poche, Le complexe de Tétis, aux éditions Odile Jacob Poche. Voilà. Alors, vous étiez très surpris de ma devinette. La virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache. Alors, la réponse, c'est quoi?
Je ne sais pas, je pense que c'est un rapport avec la queue des vaches qui bat les mouches.
Ben voilà, c'est un coup de queue et ça s'en va. Voilà.
Très bien.
Aussi bien la mouche que la virginité. Quoi, hein. Vous étiez pas loin. Ah,
je suis en Normandie.
Hein. Et oui, voilà, vous aviez tout à fait deviné.
Au cul des vaches.
Au cul des vaches et au cul des filles aussi, quand vous étiez jeune.
Merci.
Bon.
C'est du passé, ok.
Non, je ne me permettrai pas, Didier Pleu. Alors, j'ai trouvé une citation qui peut-être est assez en corrélation avec l'émission d'aujourd'hui, Didier Pleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est Aristote. Vous imaginez, on remonte loin.
Hein, là.
C'est lui qui a dit « Qui chérit Alexé, c'est haïr Alexé ». C'est joli, hein?
Non, mais ça ne m'étonne pas, parce que Platon avait dit aussi que si on laisse un enfant complètement libre, sans instruction, sans modèle, etc., ça deviendrait un enfant tyrannique. Donc déjà, ils n'arrêtaient pas de dire que non, il n'y avait pas d'histoire de crise d'adolescence forcément pour déjouer l'autorité parentale, mais qu'il fallait des modèles, des transmissions, et que l'ancien se devait d'être respecté. Parce que c'est ça aussi la frustration, c'est aussi accepter d'apprendre. Rousseau disait « Instruisez-vous avant de savoir ». Et là, il y a quand même des enfants et des ados, souvent, ils ne s'instruisent pas, ils savent. Ils vont faire des leçons de psycho en me disant
ils
sur Internet
« J'ai
vu qu'un psycho au Japon avait inventé tel truc ». Donc ils sont 10 fois plus doctes que moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter. Mais c'est quand même une drôle de chose de ne pas vouloir s'instruire.
Jérôme est avec nous maintenant. Bonjour Jérôme.
Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Pleu.
Bonjour.
Merci de réagir Jérôme.
Mais il y a une citation aussi comme ça qui dit recherchez la liberté à tout prix et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous obtiendrez la liberté.
C'est joli aussi. C'est de qui ça?
Je crois que c'est Quan Zen, je crois. Je sais plus trop, mais je crois que ça vient de lui. Mais je voudrais rechercher parce que j'aime pas trop me tromper sur les sources.
Non, mais
il me semble, voilà. Mais en tout cas, la citation existe bel et bien et je trouve qu'elle est très très avérée.
Fait. J'en avais une autre qui est plus actuelle, c'est le rappeur Nekfeu, comme quoi, je suis moderne des fois. Et ben Nekfeu, il a dit « Ma maman était très sévère, elle me donnait des limites, elle m'avait dit que si tu devenais un enfant gâté, tu serais un enfant malheureux. » C'est dans une chanson de Nekfeu, vous voyez, 2019.
Bravo.
On passe d'Aristote à philosophie taoïste, à Nekfeu.
Non, mais ça montre bien que l'être humain est fait d'émotions et de désirs, et que quelque part, bien sûr que le monde change, mais quelque part, on reste des humains, quoi.
C'est intéressant surtout que quand on connaît un petit peu le monde des rappeurs, je ne veux pas faire d'amalgame, mais on a toujours cette tendance à dire ils disent ce qu'ils veulent, ils expriment ce qu'ils veulent, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, c'est l'expression complètement libre. Et c'est pas vrai, il y a eu Solal et maintenant il y a Nekfeu qui font attention à ça, à des faits effectivement de société, en disant mais si on fait tout ce qu'on veut, on n'est pas des hommes heureux. Donc ne pas faire tout ce qu'on veut, c'est accepter ce fameux principe de frustration. Voilà.
Et donc apprécier aussi ce que l'on a et pas toujours être rivé sur ce que l'on n'a pas.
Ah ben voilà.
Je crois que c'est l'un des ingrédients du bonheur aussi, savoir savourer la vie pour ce qu'elle nous apporte, même si quelquefois c'est pas toujours ce qu'on veut, mais qu'elle nous apporte un peu de plaisir, c'est aussi savourer la vie, telle que comment ça se présente aussi, et pas toujours être dans un objectif, dans une quête éperdue d'objectifs, où on n'est plus dans le moment présent, mais on est rivé sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on voudrait avoir en fait. Mmh. Et on peut passer à côté du grand amour, ça m'est arrivé, de vouloir d'être dans l'avenir et puis passer à côté des choses au moment présent et de partager le moment tel qu'il se présente avec la personne que l'on aime ou avec qui on a envie d'être, quoi.
Mais vous voyez, ce que vous dites, Jérôme, me fait penser à quelque chose peut-être d'important et qui n'est pas toujours bien compris. Peut-être qu'on a trop l'impression que la frustration, c'est se résigner, et c'est pas ça la frustration, c'est pas se résigner. Se résigner, c'est stupide, parce que bon, il y a des moments où en effet on est obligé de se résigner, mais
oui,
de
manger son chapeau, mais c'est pas ça du tout la frustration.
C'est pas ça la frustration.
Non.
Hein.
Et il y avait quelque chose qui était bien dit aussi, puisqu'on fait un peu de philosophie, c'est Misraïl, philosophe, qui disait mais accepter la frustration, c'est être dans le préférable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans il faut, ça doit, je devrais faire ci, je devrais obtenir ça, l'autre devrait me faire ci ou ça. On est dans le souhait. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais des fois, je peux pas tout obtenir. Donc c'est une espèce de synthèse de vie qui est quand même très optimiste, et le témoignage de Jérôme le dit, il savoure la vie parce qu'il est dans l'acceptation, et non pas dans la résignation. Il va, l'autre est comme ça, l'autre n'a pas tout, mais il y a des choses formidables qui me rendent extrêmement heureux.
J'ai un truc comme ça aussi, c'est comme la pétanque, on fait donne de son mieux, puis à un moment donné, on va tirer la boule, et puis une fois qu'on l'a lâchée, à un moment donné, ça nous appartient plus. On a fait notre mieux au moment où on l'avait à main, on va vers le cochonnet le plus possible, on essaie d'écaniller l'autre boule, mais à un moment donné qu'on a tiré, il y a une sorte de foi qui doit... C'est là où
l'équilibre pour moi... C'est très sexuel, la cochonne, tirer, la boule... dis donc, Jérôme...
Vous savez comment on appelle le morceau de peau qui est entre l'anus et le vagin d'une femme? C'est le cochonnet, c'est là où tapent les boules.
Je ne savais pas que j'avais un cochonnet entre les cuisses, ça y est, j'ai découvert.
Je vois la pétanque.
Pour la blague. Non, mais je crois que c'est ça, et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. J'ai un enfant de 10 ans, un fils, et j'ai une petite fille de 7 ans et demi. Alors évidemment, on n'est pas chez les Thénardier, je ne vais pas leur faire soulever des sacs des pommes de terre de 5 kilos. D'autant plus ils sont suivis par un ostéopathe pour les faire grandir le plus droit possible. On essaie de prendre nos responsabilités en tant que parents. Et je pourrais écrire un livre sur toutes les conneries que je fais tous les jours avec mes enfants. Le fameux tu accusateur, mélangé de ce que l'on fait et ce qu'il en est, en disant mais t'es bête ou quoi? Sur un coup d'énervement, ça s'est sorti aussi. Hein. Donc des fois je me reprends, mais bon, c'est comme ça. Je fais beaucoup de conneries. Mais en même temps, il y a une chose que j'essaie de leur inculquer, c'est qu'ils font partie d'un système familial. Et à ce titre, ils ont des choses à faire. C'est-à-dire qu'ils préféreraient peut-être, et c'est légitime, je me mets à leur place, ils préféraient jouer aux jeux vidéo, ils préféreraient rester devant la télé à se légumer, et je le comprends. C'est ce que disait votre auditeur avant, c'est qu'on comprend, on les comprend, on a été droit à l'avant, et on peut que comprendre. Mais en même temps, il y a des choses à faire.
Vous oubliez pas qu'il y a aussi la verticalité, c'est-à-dire que, les enfants sont des êtres humains comme nous, mais c'est quand même pour l'instant vous qui leur inculquez comment grandir. Hein. Moi j'aime bien l'image de l'arbre aussi.
Les racines bien ancrées à la terre, et il peut s'épanouir que s'il est bien ancré à la terre
tout
avec les racines.
Ça c'est bien, ça c'est un bel exemple, Jérôme, parce que, excusez-moi de vous couper, mais j'avais participé à une émission à la télévision une fois, et il y avait quelqu'un qui parlait comme vous, qui disait qu'un enfant avait besoin, comme un arbre, d'un tuteur pour bien démarrer. Mais ensuite, par contre, on lâche le tuteur et l'arbre, il va aller selon les courants d'air, la température, il va se former lui-même à sa façon. Il y avait quelqu'un qui disait en face de lui, oh ben non, moi j'ai toujours laissé mes enfants libres, il n'y a pas de tutorat, il n'y a pas de choses comme ça, comme votre histoire d'arbre, j'adore les arbres qui vont dans tous les sens. Il avait répondu, si vous aimez les enfants tordus, continuez. Bon, c'est vrai que ça peut paraître excessif, mais je crois qu'on a besoin, Brigitte, vous le disiez, c'est la transmission, la hiérarchie dans la famille, c'est pas écraser l'enfant, c'est on a des valeurs familiales et on a le droit effectivement de dire, écoute, devant les valeurs des marchands qui veulent que tu consommes à outrance, dans l'immédiateté, nous on a des valeurs familiales qui ne sont pas forcément les écrans, qui ne sont pas forcément manger du fast-food tout le temps, qui ne sont pas forcément... Ça veut pas dire qu'il faut les faire vivre en dehors de la société, de stigmatiser écran, fast-food, la consommation, mais on a le droit de réguler tout ça, mais ça sera de la frustration pour les enfants. Mais c'est normal.
Mais c'est joli témoignage, Jérôme. Merci d'avoir participé à cette émission parce que vous le dites avec vos mots et je crois que tout le monde l'entend. Parce que
merci à vous.
Merci à vous, Jérôme. Dans un instant, on va retrouver Monsieur Prévention qui va nous proposer beaucoup de choix, me semble-t-il. Mais on attend, on est suspendu à ses lèvres.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant. Sexy News.
Alors, Didier Pleu, je pense à une chose, et Monsieur Prévention sera certainement d'accord avec moi, une frustration qui est un petit peu en perte de vitesse, c'est la nécessité de mettre le préservatif quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est frustrant de mettre ce petit bout de latex sur la quéquette du monsieur. C'est vrai, c'est
ça peut l'être.
Ça peut être...
Ou pas.
Oui, enfin, c'est quand même...
Ça peut être un plus.
Le principe de plaisir avec le préservatif, Monsieur Prévention, il vous faut du talent pour arriver
mais
à me
oui,
convaincre, allez-y.
Non mais il y a vraiment un plus, hein. D'abord on est plus tranquille,
il y a moins d'angoisse. Alors un plus après, oui, après. Ça c'est vrai.
Pour certains hommes, ça peut retarder.
D'accord, c'est un bel exemple.
Tout à fait, c'est un bel exemple d'hédonisme à moyen terme et long terme. Mais sur le moment, je pense que c'est plutôt vécu comme frustrant, difficile, ça gâche tout, ça va me casser mon érection et tout le tralala. Quoi.
Ou pas. Parce que oui, justement, non,
je pense que pour beaucoup de gens, c'est plutôt... une frustration. Mais ce qui est important, et c'est là où on va peut-être gagner dans la prévention, c'est d'expliquer que oui, sur le moment, c'est un peu frustrant, mais après, quel plaisir on a de ne pas être angoissé.
On a quand même des témoignages de gens qui préfèrent avec que sans, et c'est important de le dire.
Oui.
Il y a des hommes, par exemple, éjaculateurs prématurés ou précoces, dites comme vous voulez, qui, grâce au préservatif, vont mettre plus de temps avant d'éjaculer, et donc vont donner plus de temps de plaisir à leur partenaire, peut-être, et même pour eux-mêmes. Et puis quand le préservatif est à des parfums pas possibles et inimaginables, comme on l'a vu, ça peut aussi être agréable. Peut stimuler.
Mais bien sûr.
Mais oui, l'important c'est d'y croire et d'en avoir envie.
D'accord.
Alors justement, j'ai reçu un mail.
Allez-y.
À ce sujet-là. Je me demande d'ailleurs si vous n'êtes pas concerné par le bon.
Je suis tout de suite.
C'est anonyme. Cher Monsieur Prévention, comme elle devait partir en week-end samedi dernier avec Kevin, son mec du moment, ma grande sœur Brigitte m'a demandé d'aller lui acheter une boîte de préservatifs. Toujours prête à rendre service à la famille, lors de mes achats en grande surface, lorsque j'ai voulu acheter les objets protectifs péniens pour la très chère sister,
quel langage.
Pour ma très chère triste sister, j'ai été complètement perdu devant le nombre de modèles en rayon et incapable de choisir une boîte plus qu'une autre. J'ai bien appelé ma sœur devant l'étalage, mais elle-même n'a pas su me guider et j'ai donc fini par leur acheter la plus grosse boîte, la sachant gourmande. Mais dites-moi, Monsieur Prévention, pourquoi autant de modèles? Quelle différence entre eux? Et surtout, comment choisir le bon sans se tromper? C'est pire que pour les sacs d'aspirateur et mon bac plus 5 n'y suffit pas. Votre sœur a l'humour en tout cas. Hein.
Oui, je vois ça.
Merci d'avance pour vos bons conseils ainsi que pour l'émission de Brigitte que j'écoute aussi avec beaucoup de plaisir. Blablabla.
Oui, enfin, le blablabla, pourriez mettre des mots, quoi.
Non, non, mais
Monsieur Prévention, moi, je suis preneuse.
C'est une formule de politesse très agréable, mais...
sympa. C'est,
Parce que sinon, on a l'impression de blablater.
Non, c'est que du plaisir. Eh bien, il est bon de rappeler, en effet, qu'il y a des gens qui sont perturbés, parce qu'au départ, ils pensent qu'il n'y a qu'un ou deux modèles, et en fait, lorsqu'ils sont
Incroyable, parce que sur le site, par exemple, Capote...
Le
roi de la capote, je crois qu'il y a plus de 100 modèles.
Une centaine de modèles, oui. Et quelquefois, en rayon, vous pouvez trouver jusqu'à 20, 30 modèles différents. Alors là, vous êtes complètement perdu. Je comprends très bien la situation de votre petite sœur qui pensait que c'était plus simple. Et alors, en plus, bon, il y a un grand absent dans l'histoire, c'est monsieur.
Ben oui, on ne sait pas quelle taille il a.
Exactement. Peut-être, bon, il n'y a pas encore, malheureusement, il n'y a pas encore des salons d'essayage pour les préservatifs dans les pharmacies, mais on aimerait que certains puissent tester ou essayer le produit avant de l'acheter.
En même temps, un préservatif, ça s'adapte quand même assez bien à pas mal de tailles.
C'est très souple, oui, mais après, c'est une question de confort, en fait. Parce qu'il y a des gens... Il y a des hommes qui préfèrent lorsqu'ils sont plus serrés. Et je vous promets, il y a des hommes qui adorent être serrés grâce au préservatif. Ça prolonge l'érection, ça peut retarder l'éjaculation. Un peu l'effet Cochrane, vous savez, ce petit anneau à la base. Bon, il y a vraiment un plus pour certains hommes d'utiliser le préservatif. Il y a ceux qui aiment être serrés et qui y trouvent du plaisir. Et ceux qui au contraire, ne veulent pas le sentir. Et qui vont prendre, en effet, des capotes XL, parce que, comme vous l'avez compris, il y a des tailles. Comme les chaussures, chacun doit trouver chaussures à son pied. Donc, le monsieur n'étant pas présent...
Ben oui.
Et la petite sœur ne connaissant pas forcément l'anatomie.
Il n'y a pas des boîtes avec différentes tailles.
Oui.
Quand comme ça, suivant le mec qu'on a dans son lit le soir, on peut mettre t'es quelle taille toi, médium,
des modèles
XL,
en bois.
Non, mais une boîte de préservatif avec des XL, des médiums, ça serait bien
idée.
Ça. Non
sauf que les gens en général, ils ont surtout fait le choix d'une taille et d'un modèle, et ça manquerait.
Ils sont monomaniaques.
Vous imaginez quelqu'un qui va choisir le plus petit.
Vous citiez un site, il y a une boutique qui s'appelle le
Rolacapote. Je sais pas si je pars au Japon, par exemple, c'est pas la même chose que si je pars en Afrique.
Alors ça, ce sont les stéréotypes, parce qu'on a vu vraiment dans toutes les communautés. Oui.
C'est de l'humour, s'il vous plaît.
Sur le roi de la capote, sur le site du roi de la capote, on peut télécharger et imprimer un document papier que vous pouvez mettre autour de votre pénis pour en mesurer la circonférence. C'est ce qui vous permet, entre autres, de choisir le bon modèle en termes de circonférence. Puisqu'en effet, il y a les capotes XS pour les plis pénis, XL, XXL, etc. Donc, il y a la question de la longueur qui se pose, mais ce n'est pas la plus importante.
Ça donne envie de rester fidèle à sa femme, Didier Pleu.
Oui.
Quand on a trouvé le bon modèle, en tout cas, on ne le lâche pas. Les gens sont très accrochés à une marque et à un modèle, parce que certaines marques, Durex ou Manix, font plein de modèles. Et une fois qu'ils ont trouvé le bon modèle, souvent, ils y tiennent.
Essayer, c'est l'adopter.
Exactement, essayer, c'est l'adopter. Chacun doit trouver chaussures à son pied. Donc, il y a la question de, vous l'avez compris, la largeur, la circonférence, en tout cas adaptée. Éventuellement...
De
la texture, parce qu'il y a des préservatifs, la majorité sont en latex, mais on a des préservatifs qui ne sont pas en latex, pour les gens qui font des allergies, par exemple.
En polyuréthane.
Exactement. Moins élastique, mais encore plus résistant. Après, il y en a qui sont lubrifiés. On peut même en trouver des non lubrifiés. Pour des pratiques avec un sextoys, par exemple, ou même pour des pratiques de fellation, sachant que la lubrification pour la fellation, lorsque c'est un parfumé à la fraise, à la banane ou au chocolat, ça peut être un plus aussi.
Oui, parce qu'il faut bien préciser que la lubrification, elle n'est pas à l'intérieur du préservatif, mais à l'extérieur.
À l'extérieur. Hein. Et que souvent... Non,
parce que c'est encore une question que certains pourraient se poser.
Bien sûr. Non seulement les... Alors les préservatifs sont plus ou moins lubrifiés.
Ça me paraît logique. Oui.
Et ce qui est scandaleux, c'est qu'ils sont lubrifiés de 1 à 5. C'est-à-dire
non,
que certains préservatifs...
Je vous assure que j'ai déjà entendu...
que c'était pour mieux entrer, effectivement.
Non, mais il y a des hommes qui croient qu'il faut mettre le lubrifiant à l'intérieur pour qu'ils soient plus à l'aise.
Ouais.
Non, mais attendez, l'égoïsme, ça existe, Didier Pleu.
Mais plus à l'aise, parce qu'ils ont peut-être justement un préservatif qui les serre trop et qui aimeraient être moins serrés. Il faut prendre une taille plus grande. Le préservatif est à l'extérieur, on est d'accord. Ils sont plus ou moins lubrifiés naturellement, sauf que les préservatifs sont lubrifiés de 1 à 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 teintes de préservatifs qui sont 5 fois plus lubrifiés que d'autres. Et ça, vous le découvrez en les touchant. Ce n'est pas écrit sur la boîte, malheureusement.
Bah, c'est bête.
Ah bah,
pourquoi c'est pas écrit sur la boîte ?
Le consommateur est mal informé, en effet, sur ça. Et après, on a vu qu'il y avait des parfums plus ou moins agréables, mais il y a des lubrifiants qu'on peut utiliser.
Moi,
en
j'aime
plus,
bien la noix de coco.
Coco banane, il y a vraiment des parfums qui ont beaucoup de succès.
Noix de pécan.
Et on peut utiliser, mais pour certaines femmes, elles préfèrent que leur partenaire ait un pénis qui sente la banane ou la noix de coco que l'urine ou une odeur.
Je crois qu'il y a pas mal de femmes.
Oui, ça doit être.
Non, mais je vous dis que le préservatif, dans certains cas, lorsqu'on n'a pas forcément la possibilité de se laver.
C'est
non, mais il y a des gens qui ont des rapports un peu furtifs et rapidement, sans pouvoir passer forcément à la salle de bain avant, le préservatif peut régler le problème aussi.
Vu sous cet angle, là, j'adhère totalement.
C'est mieux.
Oui, ça, je reconnais entre l'odeur de. Bref, on va pas.
Donc,
c'était l'instant
modèles.
Romantique du jeu.
Mais
du
bon, il y a des modèles parfumés, il faut le rappeler. Il faut vérifier les dates limites. Hein, je rappelle, une capote, ça vit 5 ans. Cinq ans après la fabrication, il sait qu'il est mort. On vérifie l'état de l'emballage, etc. La conservation, c'est un élément important.
On les met pas dans la voiture en pleine chaleur. On évite de les laisser exposer en plein soleil.
Non, enfin... oui, c'est vrai. Sachant la chaleur excessive, bien sûr. On n'en met pas deux non plus pour plus de sécurité, celui du dessus il va partir, c'est une très mauvaise idée. Il faut
peut-être pas au frigo non plus.
Pas forcément au frais. Non, faut pas les faire les congeler. Ça se congèle pas un préservatif, c'est pas une bonne idée. En tout cas,
si vous voulez garder plus de 5 ans peut-être.
Qu'elle achète pour sa grande sœur et le copain de sa grande sœur les préservatifs, c'est bien, mais moi je lui conseille aussi votre petite sœur d'acheter du gel lubrifiant. Vous savez ces fameux gels dont on avait parlé qui permettent de faire des massages érotiques et qui sont comestibles pour certains, qui vont permettre de lécher un petit peu partout et qui vont en plus permettre justement lors des pénétrations, que ce soit vaginale ou anale, que ça glisse bien mieux encore. J'ai la base d'eau en général.
Mais vous avez raison, parce qu'un des problèmes aussi du préservatif, c'est quand la femme n'est pas assez lubrifiée, ça frotte, ça gêne, et du coup le préservatif bouge et il y a un accident de préservatif.
Et s'il est peu lubrifié, le peu lubrifiant qu'il y avait sur le préservatif a été absorbé par les muqueuses, et vous avez certains partenaires masculins qui font durer la chose, et c'est tant mieux. Et s'ils font durer la chose, au bout d'un moment, le lubrifiant ayant été absorbé par les muqueuses, le préservatif sera sec, et si madame ne se lubrifie pas suffisamment, ça peut vraiment être irritant et désagréable. Donc un complément lubrifiant même, et surtout pour ceux même qui ont des rapports sexuels sans préservatif, un bon lubrifiant, c'est toujours aussi un bon conseil, et vous avez des modèles extraordinaires, c'est le couple idéal, préservatif et lubrifiant, il ne faut pas hésiter. Donc en magasin, si on achète des capotes, on achète aussi pour ses proches, pour ceux qu'on aime, pour son fils, son neveu, qui vous voulez, sa grande sœur, on achète aussi un gel lubrifiant parfumé si possible, qui vont favoriser donc toute cette dimension érotique, de massage, de caresse, de léchouille.
Vous avez du talent parce que vous avez presque réussi à me convaincre. Bravo monsieur Prévention. Mais ça, cela étant dit, il faut le rappeler, hein, on a encore beaucoup d'IST qui traînent, et le seul moyen d'être tranquille les jours d'après, c'est en effet de s'être protégé, évidemment.
Tout à fait.
Merci monsieur Prévention, à la semaine prochaine. Allez, on se retrouve dans un instant, Didier Pleu, et puis on va faire un échange entre un cognitif et un psychanalyste. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud.
Non,
peut-être mettre un préservatif entre vous.
Curieux.
Allez, on se retrouve tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. Le Love Conseil.
Alors on va parler de communication dans le couple, parce que là aussi il y a souvent de la frustration qui se mêle dans la communication dans le couple, Didier Pleu. Alors j'ai essayé de trouver des règles, et puis je vous en ai trouvé 4, mais peut-être que vous en aurez d'autres, Didier. Alors il faut d'abord opter pour un vrai dialogue, parce que souvent on se parle, on croit qu'on communique, mais en fait on parle du quotidien et on parle pas vraiment de soi en fait, hein. La communication c'est de croire que l'amour ça permet de se comprendre, et communiquer réellement c'est dire peut-être ce qu'on ressent, ce qu'on désire, plutôt que d'imaginer que notre partenaire nous reçoit toujours 5/5. Alors d'abord, je pense qu'il faut savoir oser dire non, parce que si on n'ose pas dire non, ben on risque de... Alors évidemment, on va frustrer l'autre quand on dit non.
Oui, mais c'est indissociable de la vie de couple. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans l'assentiment, etc., et je cède tout, une attitude nourricière, il y a de grandes chances que l'autre va prendre une position d'intolérant en frustration, va être habitué à ce qu'on cède toujours à ses désirs, et on fait à ce moment-là un mari ou une femme reine.
Donc oser dire non, et puis en plus si vous osez dire non, bah, quand vous direz oui, on pourra savoir que c'est un vrai oui, hein, c'est quand même peut-être un peu mieux. Il faut aussi oser de temps en temps donner son point de vue, donc de s'opposer, hein, on s'oppose en s'opposant, disent certains psys.
Oui, bah ça c'est l'attitude dite conflictuelle, c'est-à-dire quand on est authentique, on n'est pas forcément d'accord avec son conjoint sur des idées et des valeurs, mais c'est pareil, ça va participer à une vie de couple riche et créative.
Vérifier que le message, surtout s'il est très important, a bien été reçu. Hein ?
Ah oui, ça c'est dans toute communication, c'est le fameux feedback. C'est quand même vérifier que l'information est bien passée et qu'on a bien compris ce que veut dire l'autre. Ça, c'est l'empathie, pas tout le temps naturelle. Il faut la travailler en communication.
Oui, parce que parfois on va dire quelque chose à notre partenaire, on croit qu'il a vraiment entendu, et puis on se rend compte la semaine d'après que de toute façon il en a pas tenu compte. Alors on lui en veut parce qu'il en a pas tenu compte, mais en fait c'est tout simplement parce qu'il a mal, il a pas entendu, quoi.
Oui, oui, bah c'est le fameux « j'ai pas envie » au niveau de l'intimité qui va être interprété par l'un « elle me désire plus » alors que c'était momentanément sur je sais pas quoi, le contexte n'était pas bon. Quoi, non. Il faut toujours « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» quoi, « qu'est-ce que j'ai ressenti ou pas ?» bien sûr.
Et puis, dernière chose peut-être, de temps en temps, oser aussi poser une question qui peut déranger à son partenaire.
Oui, c'est toujours frustrant, parce que si on part dans des logiques mathématiques, elle devrait savoir ce que je ressens, ce que j'aime, ou il devrait savoir exactement quels sont les câlins que je préfère. Là, on est dans un grand romantisme irrationnel. Alors, avoir une attitude affirmée, elle est souvent déplaisante, c'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir oser dire que ça, c'est pas mon truc, que ça, c'est plutôt préférable ? Oui, tout ce que vous dites, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'autre. C'est-à-dire que ça ne marche pas logiquement. Il va falloir vérifier avec l'autre qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
Voilà, et la communication dans le couple, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et c'est pourtant un des éléments essentiels. Je crois que l'un des premiers obstacles à la durée d'un couple, c'est justement une mauvaise communication ou un manque de communication.
On ne sait pas se parler, comme ils disent. On ne se parle pas.
Oui, on se parle sur des choses du quotidien, mais en fait,
des
on banalités, se parle pas.
Mais pas sur le fond.
Didier Pleu, nous accueillons Samuel Dogue. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Alors, je vous ai connu tout petit, tout jeune. vous grandissez tout doucement, parce que là, vous sortez un livre puissant, hein, ça s'appelle « Éloge indocile de la psychanalyse », c'est aux éditions Philippe Ray. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu les hasards de la programmation, mais je vous invite en même temps qu'un thérapeute très cognitif, et peut-être que ça peut être intéressant justement cette rencontre.
Oui, non, mais c'est super, et puis on peut réajuster en disant, là, on passe toujours pour des méchants anti-freudiens, anti-psychanalyse. Vous savez, j'avais écrit « La révolution du divan » à un moment donné, on n'en a jamais parlé. Et je pense qu'avec Samuel, on va retrouver sans doute des conclusions communes, parce qu'il y a une façon de faire de ce qu'on appelle la psychologie existentielle qui est très proche de ce que je voudrais que la psychanalyse devienne. Donc, je n'ai jamais jeté le bébé avec l'eau du bain.
Mais je sais bien.
Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Moi, j'ai publié deux livres avec Marie-France Castared et je sais que Didier Pleu est une de ses références, alors qu'elle est elle-même psychanalyste. Et d'ailleurs, dans mon travail dans mon travail sur l'éloge indocile de la psychanalyse, à aucun moment, en fait, je tape sur les cognitivistes. Je sais que c'est une très grande tradition chez les psychanalystes. Moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on puisse dialoguer. Alors, peut-être est-ce dû à mon passé de praticien hospitalier, mais moi, je crois beaucoup à un dialogue fécond entre les différentes approches thérapeutiques et je suis pas du tout contre une quelconque approche, dans la mesure où elle demeure éthique et où chacun y trouve du sens. Je le dis dès l'introduction du livre, d'ailleurs.
Alors, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, d'abord parce que il est vrai, vous parlez beaucoup de vous, hein. Par exemple, vous parlez de votre homosexualité, il y a très peu de psys qui vont évoquer leur orientation sexuelle donc ça c'est déjà un très bon point, et puis vous donnez plein d'exemples très concrets, je pense notamment sur le délire, hein, quand vous parlez, moi ça m'a beaucoup touché, de cette femme qui tout d'un coup dans la rue devient complètement folle, et en fait c'est parce qu'elle n'arrive pas à accepter le décès de son fils, hein, je crois, c'est ça.
Tout à fait, exactement.
Et c'est vrai que sur des sujets qui sont parfois assez abstraits pour les gens, hein, parce qu'il y a l'état limite, manie, alors masturbation, c'est pas abstrait, hein, obsession, tout ça, c'est des termes qu'on connaît bien quand on travaille la thérapie, quelle qu'elle soit, mais pour le commun des mortels, c'est des termes plus compliqués. Mais à chaque fois, vous essayez de parler de vous, parler de la société, et du coup, ça devient, j'allais dire, très, très abordable. Bravo.
Merci beaucoup. C'était vraiment tout l'enjeu de ce travail. Et je suis content que vous souleviez l'aspect intime, parce que c'est un risque énorme que j'ai pris en publiant ce livre, et j'en ai conscience. Au moment où je vous parle, je suis encore doctorant en psychopathologie et en psychanalyse. Je sais que certains confrères me pardonneront difficilement le fait de m'être confié, par exemple, sur les blessures qui m'ont conduit à rencontrer le divan, et qu'il est de bon ton de garder pour soi ses confidences d'analyse. Et moi, j'ai voulu faire l'inverse avec ce livre, et je raconte pourquoi j'étais en souffrance et pourquoi je me suis tournée à un moment vers la psychanalyse et comment elle m'a sauvée, en fait.
Mais Didier Pleu, vous l'aviez fait aussi, vous, je crois, dans un livre collectif, hein, de raconter vos blessures et pourquoi vous êtes devenu...
Effectivement, c'est souvent un tabou chez les psychanalystes classiques, mais la révélation de soi, c'est-à-dire dire des choses de sa vie, de son histoire, de ses blessures, de ses doutes, fait partie de la psychothérapie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec un patient, il attend ça aussi, de dire t'es un robot, t'es quelqu'un en blouse blanche, ou t'es un humain qui a les mêmes soucis, qui a rencontré des soucis, qui a construit quelque chose. Et c'est fondamental de pouvoir dire à un moment donné sa souffrance. Et je suppose que vous avez eu des souffrances dans votre homosexualité, de non-dit, de pas de partage, de désir et de choses comme ça, et de communication. Et de dire ça, c'est voilà ce qui m'a amené à parler à quelqu'un et à me construire à partir de ça. Et non pas de se dire on est tout beau, hyper. Moi j'appelle ça le syndrome du lama. Vous savez, ils ont comme si certains ils avaient tout réglé. On n'a pas tout réglé dans la vie. Chaque jour
on
est différent.
Et
puis non, il peut
tout,
se passer quelque chose demain qui fait que ça va tout bouleverser. Donc c'est une dynamique qu'il faut respecter, et vous avez raison. Et si vous le faites, c'est courageux, parce que c'est vraiment un tabou dans votre chapelle.
C'est très juste, et d'ailleurs l'entrée dont vous parlez, homosexualité, je raconte que la première fois que moi j'ai subi l'homophobie, c'était à la fac. C'était avec un enseignant psychanalyste, oui. Et ce jour-là, je peux vous dire que ça a servi d'avertissement pour tout le reste de ma carrière. Je cite heureusement le travail de Lionel Lecor, qui est un psychanalyste qui travaille beaucoup sur cette question-là. Je suis à Paris 7, et aujourd'hui, il y a quand même des professeurs qui font un travail énorme sur la notion de genre, de transidentité, d'homosexualité. Oui. Vraiment, ils sont un modèle là-dessus. Mais il y a quand même toute une tradition psychanalytique extrêmement homophobe.
Oui, vous avez dit, mais parce que j'avais noté, hein, mais avez-vous essayé les filles avant de dire ça?
Ou c'est un Oedipe qui coince, quoi, non? Voilà. Il n'y a pas une acceptation inconditionnelle de l'homosexualité.
Exactement. Point.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, bon, moi j'avais deviné que vous étiez homosexuel, j'ai un peu d'intuition, hein, Samuel Doc. Mais quand vous parlez du genre, par exemple, on sent aussi que vous êtes homosexuel. Parce que ce qu'on est, moi qui ai eu beaucoup de relations sexuelles multiples, j'ai forcément aussi une vision différente de, par exemple, de la fidélité, etc. Notre vécu, forcément, nous influence dans notre manière de recevoir les confidences des autres.
Et exactement, et c'est même à la base de la philosophie de Nietzsche. Alors, il n'y en est pas du tout question dans ce livre, mais nos savoirs sont imprégnés de nos affects, quels qu'ils soient, quelle que soit notre approche. Mais vraiment, il y a cet aspect indocile qui reste sur le livre. Et oui, je tenais à montrer un petit peu ces souffrances que j'avais pu avoir. Je raconte par exemple comment un de mes amis est décédé d'une overdose et comment j'ai dû identifier le corps alors qu'on l'avait retrouvé 3 jours après, donc ça avait été très très violent. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à développer des symptômes d'angoisse extrêmement forts. Et alors je raconte aussi comment j'ai dû essayer 5 psychanalystes avant de trouver le bon, en tombant sur des gens plus fous les uns que les autres. Et finalement j'ai trouvé le bon, qui était une personne très 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 drôle et extrêmement intelligente. Et là j'ai pu trouver du sens sur ce symptôme et parvenir à en venir à bout.
Ouais. En tout cas, c'est vraiment à la fois un livre touchant, parce que justement, vous parlez de vous avec sincérité, et puis c'est un livre qui peut être instructif, notamment, on en parlait hier justement du déni, et vous expliquez ce qu'est le déni. C'est important parce qu'aujourd'hui, on l'utilise un peu à toutes les sauces, ce mot-là. Mais arrête, t'es dans le déni. Si on est dans le déni, on ne le fait pas exprès.
C'est qu'on ne voit pas les choses.
Et c'est stupide de nous dire arrête, t'es dans le déni. Quoi.
On ne le fait pas forcément exprès.
Non.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet d'ailleurs de dire aussi une chose, c'est qu'à déni, vous avez remarqué, je fais une liste de films qui utilisent le déni pour illustrer le concept et pour le rendre un peu plus accessible. Ben, c'est vrai qu'avec le déni...
Oui, c'est vrai que c'est compliqué à
c'est
comprendre.
C'est complexe, hein. Freud en parle dans le cas du fétichisme et dans le cas de la psychose, c'est très très compliqué. Et moi j'essaie de rappeler, voilà, comment ça s'articule autour d'un clivage, comment ben, finalement, pour pouvoir dénier quelque chose, il faut bien qu'il y ait une partie qui continue de se rendre compte de ce quelque chose pour pouvoir l'enfouir. Donc voilà, je donne des exemples, oui, de la vie quotidienne. Mais vous savez, Freud lui-même, alors j'ai pas du tout la prétention d'écrire comme lui ou de penser comme lui, certainement pas, mais il rêvait d'une psychopathologie de la vie quotidienne. Il rêvait que les personnes puissent, à travers notamment l'interprétation des rêves, mettre du sens sur les événements qui les marquaient. Je me demande à quel moment la discipline psychanalytique s'est perdue et à quel moment on a perdu de vue les gens que nous prétendions vouloir aider. Et ce livre-là ne s'adresse pas au psychanalyste, même si je pense que ce sera l'occasion parfois pour eux d'aborder les recherches contemporaines sur le sujet, mais ça s'adresse d'abord aux gens, entre guillemets, normaux, qui n'ont pas forcément un bac plus 7 pour aborder tous ces concepts.
Oui, bien sûr.
Et j'espère vraiment leur restituer une science qui aurait toujours dû leur appartenir.
C'est absolument, vous avez raison, Samuel Doc. C'est pas du tout un livre qui s'adresse aux psy, c'est un livre qui s'adresse au grand public, qui a envie quand même un peu de comprendre la psychologie au sens large du terme. Hein. Oui. Éloge indocile de la psychanalyse des éditions. Philippe Rey, vous dites aussi quelque chose de très beau sur... pareil, une expression qu'on entend de plus en plus et qui n'est pas toujours très bien comprise, la psychosomatique.
Ah oui.
Et vous dites quelque chose de très beau, le symptôme psychosomatique ne témoigne en rien d'un échec du langage, mais plutôt de l'intensité de la détresse de celui qui en souffre. Et c'est vrai que la psychosomatique, bon, quand on dit à quelqu'un ton cancer, il est psychosomatique, c'est très violent.
Mais c'est double peine. Oui.
Et ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de souffrance et c'est aller lui balancer ça, c'est pas l'aider. Hein.
Et exactement, et pour le coup, cette entrée devait forcément être présente dans lui, puisque comme je vous le disais, j'ai travaillé à l'hôpital, notamment avec des ados souffrant de maladies chroniques, et on nous adressait parfois les patients dont on savait pas quoi faire. Alors voilà, ils ont mal au ventre, on a fait plein d'analyses, on sait pas pourquoi. Et il est incroyable de voir tout ce que le corps peut témoigner de cette souffrance psychique qui ne peut pas s'exprimer autrement. Oui, tout à fait.
Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas tenir compte du phénomène de psychosomatique, mais oui. Moi, ce que je voudrais juste dire, et on en parle souvent dans cette émission, notamment avec Michel Odoul, mais quand notre corps souffre, il faut l'écouter, et peut-être l'écouter encore plus, parce qu'il y a quelque chose de très profond qu'il nous dit. Hein. C'est un peu ça que il y a une souffrance très profonde hein, quand le corps souffre.
Nous sommes une unité, et Winnicott, ce génial psychanalyste, le disait déjà, nous sommes une unité psychosomatique qui a un dialogue constant entre nos cellules et notre esprit, et notre cognition aussi d'ailleurs. On ne réfléchit peut-être pas assez
Spinoza.
À ça.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Samuel Doc, et là je suis vraiment d'accord avec vous, je crois que l'apport de la psychanalyse dans le bon sens du terme, ça pourrait nous aider à avoir une meilleure éthique de la société actuelle. Et c'est peut-être pour ça, tous ceux qui sont justement dans une envie de nous gouverner sans éthique sont contre la psychanalyse finalement.
Alors il y a des psychanalystes qui font vivre cette idée aujourd'hui. Hein. Roland Gori a fait un travail remarquable récemment autour de la figure de Macron, voilà, en réfléchissant à psychanalyse et politique. Mais c'est vrai qu'on reste pas nombreux et que beaucoup de psychanalystes sont trop enfermés dans leur cabinet sans regarder le monde qu'il y a en dehors. Et ça part en fait pour une raison, c'est que Freud a dit que l'inconscient ignorait le principe de réalité. Mais on oublie qu'il puise aussi dans cette fantasmatique sociale. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que je parle de médias, de porno, de développement personnel, du coaching, de la société. Parce que je veux revenir un petit peu aussi au monde extérieur. Sortir la psychanalyse de son autisme.
Didier Pleu, vous...
Non, moi je pensais en ce moment, c'est notre sujet d'aujourd'hui, hein, Freud. Si, je ne suis pas à 100% freudien, mais c'est vrai que quand on lit Malaise dans la civilisation avec le principe de plaisir et le principe de réalité, il avait tout aussi anticipé au niveau de ce rapport entre la frustration et le plaisir. Simplement, lui, le plaisir était un peu trop connoté sexualité uniquement. Le plaisir, ça peut être n'importe quoi, l'alimentation, les jeux, etc. Mais il avait bien pointé ça, qu'il y avait trop de réalité dans le temps, donc refoulement sociétal, religieux et névrose. Mais il avait aussi souligné, attention...
Il ne faut pas tout libérer non plus.
Eros, s'il emporte tout le temps sur Thanatos, ça ne marche pas non plus.
C'est vrai. Et alors, puisque vous avez parlé de pornographie, là aussi, hein, vous faites une analyse assez moderne de la pornographie, quoi. C'est pas non plus le diable.
Hein. Ah oui, j'en ai vraiment assez. Il y a des espèces d'automatismes de pensée. C'est systématiquement, lorsqu'on évoque le porno, alors attention, voilà, on va instrumentaliser la femme, on va la rabaisser plus bactère, ça va façonner l'imaginaire des enfants. Enfin, on prend vraiment les femmes et les enfants pour des sortes d'éponges à images, ce qui est bien sûr complètement faux. Et je cite le travail de mon directeur de thèse, Éric Bidot, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychanalyse et pornographie, qui est génial parce qu'il bat en brèche tous ces clichés. Et oui, je pense qu'il faut pouvoir un petit peu voir le monde avec d'autres, je vais faire une petite provocation, mais avec d'autres outils que ceux de la Vienne de 1905. Voilà.
Voilà, avec des lunettes de 2019.
Exactement.
Pas mal.
Bravo en tout cas. Éloge, Indocile de la psychanalyse, c'est aux éditions Philippe Rey. Merci d'être avec nous, Samuel Doc. Vous pouvez rester jusqu'à 16h, bien sûr. Vous êtes tout à fait bien avec nous. Et on va donner dans un instant à nouveau la parole à une auditrice, justement.
14h, 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours avec Didier Pleu, Samuel Doc, on évoque donc le principe de réalité. Ça, c'est un terme très psychanalytique, en fait, le principe de réalité, il me semble. C'est pas.
Oui,
c'est
tout
pas
à fait.
C'est, pourtant, c'est deux mots qui sont faciles à comprendre, principe et réalité. Mais c'est une expression qui est assez. Qui est peut-être pas si simple à comprendre pour tout le monde. Comment on pourrait expliquer ce.
Le principe de réalité, ça veut dire qu'à partir du moment où on dit principe, ça veut dire qu'il y a des exigences. Quoi. Il y a un principe de réalité avec ses exigences qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Bon. Il n'a pas forcément développé ça. Freud a développé surtout le fait que la réalité castrait l'individu avec la religion et les interdits. Mais la réalité, ça veut dire qu'elle exige une acceptation des aléas de vie. Comme il y a un principe de plaisir avec ses exigences sexuelles.
Par exemple, on va tous mourir, ça c'est un principe de réalité. On va tous mourir. Comment ?
Vous êtes dans le déni. La finitude, ça fait partie du principe de réalité.
On va perdre sa jeunesse, on va...
Oui, on va vieillir, ça va être moins sympathique, etc. Mais c'est vrai
qu'il
est souhaitable de lier ça avec le principe de plaisir. C'est ce que j'ai appelé le complexe de Tétis, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à naviguer dans ces deux principes-là, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Puisque la réalité est difficile, est-ce que je peux aussi jouir de ma vie, mais pas n'importe comment ?
Très bien.
Là, c'est aussi voilà, sur un plan analytique, le fait que l'inconscient va chercher à l'extérieur, dans l'environnement extérieur, de quoi se satisfaire, exaucer le principe de plaisir, mais le sujet, la personne, doit pouvoir composer avec l'autre, tenir compte des exigences de la société pour pouvoir maintenir son intégrité psychosomatique. En fait.
Donc par exemple, j'ai un homme dans mon lit qui n'est pas très beau, alors je fantasme sur
Brad Pitt,
si vous voulez, pour que j'ai du désir et que je m'excite et que je prenne mon pied.
Certain que le fantasme est une fenêtre merveilleuse sur le réel, ça on est bien d'accord.
On peut
dire aussi consciemment que je préfère Brad Pitt à mon époux s'il est moins beau, mais que c'est comme ça, quoi. Point.
Oui, ben on fait avec.
Voilà. On fait avec, non ?
Louise, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour messieurs.
Donc vous avez eu des valeurs qui ont été transmises par vos parents, vos grands-parents
Oui. Oui, moi, en fait, je suis une petite fille frustrée,
oui. Parce
que quand je suis née, ben, ma maman ne me voulait pas, donc j'ai été élevée jusqu'à l'âge de 10 ans par mes grands-parents, et qui ont largement compensé la frustration que je pouvais avoir. En fait, je me suis rendu compte que j'avais été frustrée, mais quand j'ai été adulte, et moi-même maman, parce que...
Vous voulez dire que vous avez réalisé, quand vous êtes devenue maman... que vous n'aviez pas eu la chance d'avoir votre maman qui vous a désiré.
Exactement.
Hein ? D'accord.
Exactement. Et par contre, j'ai appliqué, j'ai essayé, mais je pense que j'ai réussi à appliquer toutes les règles que mes grands-parents m'ont inculquées, notamment le respect des autres et la tolérance.
Mmh.
Et quand je suis devenue maman, alors, j'avais ces deux notions de respect, de tolérance, d'amour aussi, mais de moi-même, il manquait quelque chose au tableau pour pouvoir élever mes filles. Et je crois que spontanément, j'ai été grattée un petit peu à l'intérieur de moi et j'ai trouvé les câlins, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la complicité.
Oui, mais je pense, Loïse, que vos grands-parents vous ont certainement aimé et vous ont donné des câlins, etc.
Oui.
Ce que je crois surtout, c'est qu'au moment où vous êtes devenue maman, tout d'un coup, cette blessure très, très archaïque, puisque vous étiez un tout petit bébé, elle est remontée à la surface au moment où vous devenez maman. Et donc, il a fallu que vous puissiez, et vous l'avez fait visiblement avec beaucoup de talent et de sagesse, il a fallu que vous arriviez à dépasser cette souffrance pour être la bonne mère que vous avez été.
Oui, mais la souffrance, je devais la vivre au quotidien parce que je pense que ma maman ça a été un manque, mais on s'en rend pas compte. En fait, je pense que justement peut-être par l'amour de mes grands-parents, mais aussi par l'environnement, parce que je suis gay de caractère, parce que j'aime tout, j'aime la vie, j'aime le soleil, j'aime la nature. Donc je crois que tout ça, ça permet à son intérieur de cacher cette douleur et à un moment donné, effectivement, elle...
De la dépasser.
Oui.
De la dépasser. Vous avez dépassé cet abandon qui forcément fait souffrir.
Oui, mais Louise, c'est l'exemple parfait pour moi d'une personne résiliente, quoi. C'est pas parce qu'on a eu un mauvais attachement qu'on peut pas trouver des tuteurs de résilience et qu'on peut pas être heureux dans sa vie. C'est-à-dire, oui, il y a des carences affectives, il y a des choses difficiles, des cicatrices, on est avec son histoire, mais on peut reconstruire quelque chose. C'est à ce titre-là que je suis très existentialiste et je crois que Louise, elle l'a vécu. C'est le parfait, pour moi, exemple de la résilience et c'est aussi le parfait exemple de notre sujet d'aujourd'hui. Elle a appris des valeurs avec ses grands-parents. Souvenez-vous, le truc de le test de frustration de Michel, l'Américain, les marshmallows que les enfants mangent tout de suite et qu'il y en a 10% qui ne les mangent pas. Après, on a su que les 10% des enfants qui résistaient à ne pas manger tout de suite les guimauves...
Il faut peut-être rappeler, parce que moi je la connais cette expérience, mais on dit aux enfants, on dit à, par exemple à 10 enfants qui sont dans la salle, si vous ne mangez pas tout de suite
Les deux chamallows, les deux guimauves, là vous en aurez beaucoup plus tout à l'heure.
Voilà.
Il n'y en a que 10% qui réussissent à différer, c'est-à-dire à ne pas les manger tout de suite.
Mais c'est des enfants, hein, c'est donc des...
De 4 ans. Oui, hein. Mais ce qu'on a su, c'est qu'après, d'abord, 30 ans après, ils vont tous très bien, les 10%, mais surtout, ils ont dit qu'ils avaient appris à différer. Comme quoi, c'est pas naturel. Leur maman ou leur papa leur avait dit, tu sais, quelquefois, on peut pas avoir tout de suite, pense à autre chose, diffère, et puis, voilà, à 4 ans, ils avaient appris à différer. Oui. Et les autres qui n'avaient pas appris, c'est le striatum, c'est tout de suite. Quoi.
Voilà, oui, mais c'est maintenant, c'est souvent comme ça d'ailleurs.
Oui,
moi, je pense que j'ai appris justement à mes filles qu'on pouvait pas tout avoir d'un coup et que il fallait justement attendre, essayer même de soi-même d'arriver à avoir ce que l'on veut. Et je crois que j'ai réussi en ce sens parce que j'ai trois filles avec deux filles qui sont âgées et qui sont mamans, et elles ont inculqué cette même notion. Il y a pas longtemps, ma fille aînée m'a dit, tu sais maman, moi j'ai pas de problème avec mes enfants parce qu'en fait je les ai élevés comme tu nous as élevés.
Dès le départ, vous leur avez appris la frustration, votre fille vous leur a appris la frustration, et donc ça va bien, les générations s'entendent bien. Oui, Samuel, donc allez-y, je vous en prie.
Au-delà de la frustration, j'entends aussi que vous a été transmis beaucoup d'amour et qu'il y a eu un lien d'attachement très fort. Et c'est aussi ça, c'est ça, être lesté narcissiquement de quelque chose. Et on peut transmettre quelque chose quand on a soi-même reçu quelque chose. Et je trouve que c'est très touchant la manière dont vous parlez de vos enfants et dont vous essayez de construire une pensée, un raisonnement autour de tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous bénéficié de parents suffisamment étayants, sécures, mais on peut trouver l'attachement ailleurs. Et c'est en ça que je rejoins Didier Peu lorsqu'il parle de résilience ou Julia Kristeva lorsqu'elle parle d'un affect d'existence. On vous a transmis un affect d'existence, vous êtes là et vos enfants sont là.
Non, moi, je voudrais ajouter simplement qu'il n'y a pas que la carence affective, c'est la carence éducative peut être très destructrice pour l'humain.
Bien sûr.
Donc la Louise, elle a été non seulement aimée, mais elle a été aussi éduquée.
Exactement.
Elle a reçu des valeurs, comme vous l'avez si bien dit, Louise, des valeurs d'échange, de respect, de tolérance et d'amour. On restera sur ces très beaux mots. Et merci à tous. Merci Samuel Doc, éloge indocile de la psychanalyse, c'est aux éditions Philippe Ray. Merci Didier Pleu. Le complexe de Tétis, c'est aux éditions Odile Jacob en poche. Demain, on va aborder un sujet un peu ardu avec Christian Jamin. On va évoquer la vénalité des femmes. Est-ce que les femmes seraient devenues vénales, peut-être à cause de la crise, je ne sais pas. Enfin bref, on en parle demain avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.